We always thought alien life would come from the stars. But it came from deep beneath the Pacific.
What the hell is going on?
Les poulpes castent le doc.
Fantasus. Les poulpettes et les poulpes, nous sommes le... à ma montre Seiko Quartz, le 3 septembre 2014. Ah ouais, c'est pas con de dire la date comme ça, au moins... Pour les archives mondiales de l'UNESCO, on pourra se rappeler quand est-ce que ça a été tourné. Vous êtes à nouveau, oui, je sais, vous avez l'impression de tourner en boucle, que ça fait 3 poulpcasts que je vous dis que vous êtes dans le poulpcast qui s'appelle Marre des Masques. Eh bien oui, vous êtes à nouveau dans le poulpcast Marre des Masques version 3. Dans les deux premières versions qui ont eu un succès planétaire, je ne sais pas ce que vous en pensez, mes comparses de ce soir, mais c'était assez monstrueux comme succès.
Exactement, exactement Jean-Pierre.
Ça a même occulté la prochaine annonce de Apple. Ils ont dit bon, on est obligé de le décaler le 9 septembre parce qu'il y a un podcast qui vient de sortir. Donc, suite à ces deux mirifiques podcasts qui c'est vraiment éclaté et on a fait ressortir des choses que vous connaissiez peut-être pas ou que voilà, vous étiez passé à côté, vous aviez des mauvais une mauvaise presse sur certaines campagnes. On s'est dit, et vous nous avez demandé aussi de continuer, parce que vous en vouliez plus. Quand on en veut plus sur TOC, on s'en prend plus. C'est fait pour. Donc ce soir, nous avons Prince Noir que vous connaissez.
Lui.
Prince Noir, l'homme qui, comme moi, n'aime pas le narrativisme. Et comme Steve, autrement dit Desprite, n'est pas là, nous avons été obligés de sortir un autre narrativiste de sa cachette. Nous avons enfumé Dark Keeper. Bonsoir Dark Keeper.
Bonsoir.
Qui nous rejoint pour la première fois. Exact, Fungui, qui va nous défendre. Ben je vais laisser le suspense pour ceux qui ne le savent pas encore. Car voilà comment ça va se passer. Nous allons défendre chacun notre tour. Pour ceux qui n'ont pas écouté les deux premiers, je vais commencer par un scénario. J'ai une vingtaine de minutes pour le défendre, pour vous obliger à l'acheter, sans violence, sans détenir votre famille ou d'avoir deux personnes en otage. Et suite à ces 20 minutes, mes deux autres comparses vont me donner une petite note, comme dans l'école des fans. Tout le monde a gagné. Une note pour me dire est-ce que je les ai convaincus, ils l'étaient peut-être à la base, ou pas, de jouer cette campagne. Donc moi j'en ai une, Dark Keeper en a une, et je terminerai par une dernière. Car les gens rentrant et tout ça, on n'a pu avoir que deux intervenants. Juste une petite chose pour commencer, pour rigoler un peu. Je sais pas si vous avez été voir, je sais pas si vous l'avez vu, Dark Keeper et Prince Noir, la tête de la nouvelle version de...
J'ai un peu peur, mais annonce.
La tête de la nouvelle version de Terreur sur Orient Express, où on voit, je sais pas trop, qui c'est peut-être de la famille de Sandy Peterson, qui a l'air hyper enchanté de tenir une boîte qui a exactement la même dégaine que la version originale. Quand je vois, nous... les simples couvertures des livrets avec les logos du Simplon Orient Express qu'on va avoir chez son détour. Je me dis, les ricains, tous ceux qui ont balancé du Kickstarter et tout ça, mais putain, mais à leur place, je serais dégoûté. Je sais pas si vous l'avez vu, tu l'as vu, Dark Keeper ?
Je l'avais vu, ouais, je vois, ouais.
Mais c'est un truc de fou, quoi. Enfin, leur truc, ça va être des repompes en plus des illustrations. Je sais pas si tu l'as vu, Prince Noir.
Oui, je l'ai vu, et effectivement, la vie est injuste, hein, c'est comme ça.
Mais c'est un truc de malade, parce que franchement, la couverture des petits livrets, là, version super classe, un peu genre vieux cuir, avec gravure dorée à l'intérieur, avec le logo du Simple Orient Express, putain, rien que ça, ça te fait frissonner, quoi.
Ouais, tu m'étonnes.
Tout en sachant que, vous vous en souvenez tous, Desprite devra, on le forcera, on ira le chercher par la peau du cul, s'il le faut, mais il doit participer à un pool piest, puisqu'il en est l'initiateur sur Terreur sur Antexpress, ou comment délinéariser cette campagne mythique.
D'abord, enfin,
ouais, ça va être sympa, ça.
Ouais, comment la faire sortir des rails.
Comment jouer les aiguillères. Je sens qu'on va faire des bons genoux pendant ce pool piest. Mais avant ça, nous avons donc... alors, je sais pas si on terminera par celui-là, parce que ça fait quand même 3 épisodes qu'on défend des campagnes, peut-être qu'on continuera, on verra. Nous allons commencer ce podcast. Je vais défendre un scénario qui est assez, il faut l'avouer, facile à défendre. Un scénario qui fut disponible sur TOC. Alors j'espère, Mais comme il y a une chape de mystère sur ce qui va sortir et que Toc n'est plus dans les petits papiers et donc on connaît pas les choses en avance, je sais pas si ça sera dans le musée de l'homme, là, le recueil des scénarios des meilleurs scénarios de Tristan l'homme. Mais c'est, une fois n'est pas coutume, un scénario de Tristan l'homme, comme quoi je suis pas revanchard, que je vais défendre, qui est absolument, vous me l'accorderez, je pense que ça fait partie des classiques, quelque part, qu'il faut avoir joué, qui s'appelle Yatch, Rafiot et Liqueur d'Algues. Je vais donc lancer
effectivement.
Hein, pour savoir, vous l'avez joué tous les deux ou pas?
Non, non, moi je l'ai pas joué, moi.
Beaucoup entendu parler, mais pas joué.
Bon, bah c'est bien comme ça, je...
Il paraît qu'il était gratuit sur Toc un moment, et je l'ai pas chopé. Bête que je suis, maintenant je... Tant pis.
Fut un temps, tout à fait. Donc, je vais lancer mon chronomètre, il est 21h quasiment 15, et je vais avoir une vingtaine de minutes, mais je pense que vu le scénar, j'aurai besoin de moins, pour vous convaincre de jouer... j'espère sortira avec le musée de l'homme. Jouer ce scénario. Oui.
Attention, je surveille le sablier.
Attention, il est 15, c'est parti. Donc, Kyoto, Rafio et les cœurs d'algues, je sais même pas si ça faisait partie. Je crois que c'est un scénario grand écran. On a appelé les scénarios grand écran, c'était un casus belli, c'était un scénario qui faisait la moitié du petit fascicule interne. Donc, sur toi qui faisait une 16 pages, c'est un scénario qui s'articule en 3 actes. Ça me rappelle un peu celui de l'autre fois que j'ai fait le livre des révélations, un truc comme ça, où le dernier acte, j'ai jamais fait jouer, c'est tout pourri, enfin je l'aime pas. Donc je vais vous parler principalement des deux premiers actes. Et pourquoi il faut le jouer? C'est tout bête. Si vous voulez mélanger une hyper enquête à la Agatha Christie, alors au fait, bien sûr, hein, on commence les spoilers. Donc si vous voulez mélanger une enquête à la Agatha Christie, vraiment très sympa, version huis clos, version PNJ de Folie. Vous ajoutez à ça un bon film, angoisse horreur, à nouveau huis clos, avec des putains de PNJ flippants au possible, avec du poulpe très très finement dosé, avec des monstres que vous ne connaissez pas, et termine par un truc sur Terre que je trouve, bon, que j'ai jamais vraiment fait jouer parce que je suis pas fan, mais le mélange Agatha Christie et film d'horreur, je vous explique en quoi ça consiste un petit peu. Le pitch, c'est un ami, une fois n'est pas coutume, vous avez beaucoup d'amis, celui-ci est riche, il n'a pas hérité, contrairement à ce que vous auriez pu penser. Il a un bateau, et il vous invite pour une petite croisière, qui doit se dérouler, je ne sais plus trop où, mais je crois que c'est au large du Maine ou un truc comme ça, aux côtes est des États-Unis. Le fait est que quand vous dites ça à vos joueurs, forcément, ils vont se dire il va y avoir des strums qui vont sortir de la mer, qui vont nous attaquer et tout. Que nenni. Le scénario commence par la mise en situation, on croise des gens, comme le type qui vous a invité, c'est un peu genre un flambeur, un mec, une sorte de richard, un mec un peu. Un casse-couille, quoi, mais plein d'argent. Donc il a invité pas mal de monde, ce qui fait qu'il y a une belle galerie de portraits qui se monte. Et suite à cette galerie de portraits, un homme, une personne est assassinée. Et forcément, comme les investigateurs sont sur le bateau, je sais que ça va hérisser les poils des narrativistes comme toi, Dark Keeper, mais le fait est que on se doute que les investigateurs vont mener l'enquête. Donc, le fait est que, comme on s'en doutait, les investigateurs mènent l'enquête. Bah sinon, ils rentrent chez eux et ils jouent à la PlayStation 4. Et l'enquête a pas mal de rebondissements. Elle est assez sympa, parce que c'est pas vraiment ce qu'on croit. Et le gros intérêt, c'est que si vous menez bien, si vous montez bien la sauce... Moi, je me rappelle que mes investigateurs, à chaque fois, j'ai joué plusieurs fois, s'attendaient que le mythe arrive. C'était qu'il y avait un truc, quand ils fouillaient une cabine, ils cherchaient les livres occultes, il y en avait un qui était tout seul sur le bastingage. Il regardait dans l'eau et puis aussitôt il flippait, il faisait des jets de trouver objet caché ou de perception, des choses comme ça. C'est assez marrant. Et comme ils ne le savent pas, ils vont finalement focaliser là-dessus. Alors que c'est une enquête toute bête. Il y a un vol de bijoux, un truc comme ça, c'est tout con. Et le fait est qu'il y a un type... soupçonnant cette chose-là, a mené une enquête qui n'était pas très discrète, et le type qui était la cible de l'enquête s'est débarrassé du fouineur. Mais, c'est là où c'est intéressant, c'est à la fin de l'acte 1, je sais plus trop comment ça vient, mais le fameux assassin soit avant de disparaître, soit avant de se faire choper, je sais plus trop comment ça se passe, mais le bateau tombe en panne, le brouillard monte forcément, il commence à faire un peu nuit et tout. Là, les investigateurs n'ont toujours pas eu de poulpe, ils se disent, bon, ça y est, on va se faire attaquer par des doles géantes, il va nous sortir Toulouse et tout, ça va être la fête à nœuds. Non, pas du tout. Le fait est que vous êtes en perdition, donc là, assez sympa, on peut jouer pas mal avec les PNJ qu'on a déjà introduits qui ont peut-être révélé leur vraie nature du fait du stress. Un cargo faisant route croise la route donc de votre bateau et vous recueille gentiment. Et alors là, vous pouvez vous délecter d'une galerie de portraits de marins plus profonds, quand je dis profonds, hein, avec un P majuscule, les uns que les autres. Les yeux globuleux, l'odeur de poiscaille, en même temps c'est un cargo. Des couloirs un peu sombres, le truc mal entretenu, des algues, le capitaine, je sais plus si on le voit, enfin, la cata. Le fait est que ce n'est pas encore, là, on pourrait se dire, ça y est, c'est les méchants. Non, car en réalité, sur ce bateau, les gens qui sont là, je sais plus trop, mais je crois qu'ils font de la contrebande, donc faut pas trop plus leur souffler dans les branchies, mais surtout, ils ont embarqué, je sais plus si c'est volontairement ou pas, je crois pas, un monstre, un seul. On s'attendrait à avoir une horde profonde et tout ça, pas du tout. C'est un putain de monstre qui est excellent, qui s'appelle le Dévoreur, je crois. Qui est très très méchant, je me rappelle plus ce qu'il a comme pouvoir ou comme capacité, mais genre, faut pas le croiser dans une coursive. Et donc, dans cette espèce, ouais, cette créature semble se consacrer à un seul but, manger des êtres vivants, bien sûr. Et pour cela, et comme pour cela, il faut les tuer, c'est un prédateur, sans doute l'un des plus dangereux qui soit. Ouais, parce qu'il a plein de tactiques de chasse. Voilà. Et donc, en réalité, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils s'attendaient dans l'acte 1 à du poulpe. Ils en ont pas eu, c'est une enquête. Agatha Christie, tout ça, on interroge. Ils se font sauver par une espèce de cargo avec un équipage patibulaire. Voilà les profonds. Ben non, c'est pas eux. Et finalement, c'est la créature qui est cachée dans les cales et qui va se mettre à attaquer au fur et à mesure et au petit bonheur la chance. Sachant que bien sûr, les joueurs, moi, ils sont tous en train dans le panneau, c'est qu'ils ont tout de suite accusé l'équipage. Alors, il suffit que vous fassiez sortir un mec avec un peu de sang qui déborde parce qu'il vient de manger, je sais pas, un steak ou quoi que ce soit de sa cabine, en même temps que les investigateurs sont en train d'enquêter, et là, vous dites, c'est bon, il est en train de bouffer notre copain. Enfin, moi, je m'étais éclaté, je leur avais donné des noms tout pourris, puis en plus, enfin, il suffisait que un des membres d'équipage se trompe, alors qu'on peut tous se tromper, mais aussi tous les investigateurs, ça y est, ils mettaient sur leur liste noire et tout ça. Si vous jouez bien le dévoreur, ça peut être très très sympa, parce qu'en plus, il a une forme quasi humaine, c'est un humanoïde, et c'est vraiment excellent. Enfin, voilà comment ça fonctionne, les deux premiers actes, sachant que le troisième acte, en réalité, se déroule sur Terre, alors je sais plus trop. En réalité, il part du fait que le truc de contrebande que emmènent les types sur le cargo, ils peuvent remonter la piste, ça les emmènera sur Terre, vers une distillerie ou machin et tout ça. Enfin bon, ça c'est pas génial. Et je crois que même, ouais, si je me trompe pas, on peut se faire un super final sur le cargo lui-même. Le fait que le dévoreur en réalité est une créature qui, je crois, est liée quand même au profond. Et vous pouvez en réalité comme aide, au cas où le dévoreur se ferait un peu malmené par vos personnages, tomberait vers un final avec une horde de profonds qui attaque le cargo. Donc, je dirais que c'est un scénario qui est assez quand même, pas complètement, mais assez original par sa structure. C'est le côté enquête, peu poulpique, et puis le poulpe qui tarde à venir et puis qui vient d'une façon un peu originale. Surtout, il mélange le côté enquête, le côté galerie de portrait, le côté vous avez, en réalité, si vous jouez les trois actes, trois ambiances complètement différentes, c'est-à-dire le bateau de Richard, l'espèce de cargo, et la distillerie en ville. Donc, vous avez, alors, bien sûr, l'élément prédominant, c'est la flotte. Le côté humide tout le temps, le côté odeur de poulpe, enfin, odeur de varech tout le temps, le côté huis clos, c'est-à-dire que, bon, au bout d'un moment, autant quand on est sur un beau bateau d'hommes riches et qu'on boit des cocktails, on fait plouf dans l'eau, d'accord? quand on est sur un cargo tout glauque avec tout l'équipage qui ressemble un peu au casting du Nom de la Rose et la mer qui est d'un noir d'encre et un peu huileuse, on se jette pas comme ça en faisant la bombe. Donc tout ça faisant, le huis clos, si vous avez des personnages qui aiment bien, je dirais, incarner des personnes un peu originales, des grands noms de la presse, dandies, des choses comme ça, franchement, vous pouvez vous éclater. Alors, ça fait 16 pages, je me rappelle que c'était assez long, rien que la partie, alors après ça dépend de vos joueurs, mais moi rien que la partie enquête, ça a duré vachement de temps. Que j'avais fait des bouffes, j'avais organisé un casino sur le bateau, tout ce genre de choses.
Ah ouais,
ouais. Ah ouais, ouais, on avait fait un truc sympa. Et surtout, ce qu'il faut absolument, c'est avoir récupéré maintenant avec Internet, c'est facile. J'espère qu'il y aura des super plans dans le musée de l'homme. Il y en avait sur Toc, je les avais récupérés. Deux plans, il vous faut deux plans. Un bateau, genre petit bateau de croisière. Genre le truc du Ponant, là, les mecs qui se sont fait raisonner chez nous, là. Et un cargo, donc voilà, un truc que je dirais un peu standard. Pour les inspirations, c'est assez simple. Il suffit de regarder, vous revoir avec Peter Ustinov, je crois, Croisière sur le Nil. Bon, rien que ça, vous prenez ça, et puis un autre Agatha Christie, et c'est nickel. À ça, vous ajoutez un bon vieux film d'horreur, genre série B, genre Le Bateau de l'Angoisse ou Destination Terreur, je sais pas trop si ça existe, mais un truc avec un huis clos et un équipage sur un bateau.
Ah, de pour moi, la manière dont tu le décris, c'est ça ressemble à Alien dans la mer, quoi. Hein,
ah, voilà. J'allais dire, pour le côté huis clos et créature, alors le côté sympa, c'est que la créature, elle est pas non plus imputable, c'est-à-dire que des bœufs, c'est pas de l'acide et tout ça, par contre, elle est vise, là. C'est là où c'est sympa, c'est que vous pouvez vous éclater en tant que gardien parce que elle réfléchit. Et c'est-à-dire qu'elle va essayer de séparer les joueurs, elle va essayer de semer la discorde, elle va essayer, je sais plus combien d'intelligence. Je vais vous dire.
C'est un vrai prédateur.
Ouais. Ah ouais, vraiment bien. Elle a 11 en intelligence, 14 en pouvoir, 16 en dex et 30 en force. On dirait un peu un gug des polopathes, quoi.
Pas mal.
Voilà. Plus elle mange, plus elle grossit. Elle commence avec une taille de 15 et 20 points de vie. Augmenter ses deux caractéristiques de 3 points par victime consommée. Alors, on peut faire durer, faut faire gaffe, mais ils peuvent. On peut faire durer parce que, comme elle peut se paumer dans le bateau et tout ça, elle peut tout à fait faire quelque chose. Ça peut durer plusieurs jours. Moi, je me rappelle que ça avait été assez court. Mes joueurs, ils aiment pas quand ça dure trop, donc de moins en moins de temps. Ça, l'acte 3, ça va à Boston, Innsmouth. C'est un peu plus standard, moi je m'étais pas. Et puis, le problème de l'acte 3, c'est si vous le jouez, c'est. En réalité, on finit par un acte beaucoup plus calme. C'est un peu bizarre. Je trouve que ça s'articule moins bien. Alors que là, si vous faites la croisière, puis l'attaque du bateau, là, ça dépote. Donc. Pour conclure, je dirais que Yotrafio, liqueur d'algues, déjà il porte bien son nom, c'est les trois actes, Yotrafio et liqueur d'algues. À préparer, ça demande un petit peu de temps, mais c'est assez facile, hein, avec la fameuse astuce, je sais plus qui c'était Yodamister, je crois qu'il avait donné. Vous savez, où vous mettez des petits chevrons en papier que vous mettez sur votre écran avec la tête des PNJ et leur nom en dessous. Et de l'autre côté, en pliant la feuille, en pliant les bandes de papier, vous avez les caractéristiques, c'est très physique, ou manteau particulier, s'ils osotent, machin, s'il est trouillard et tout ça. Donc vous vous préparez toute la galerie des PNJ, sachant qu'il va vous en avoir un paquet, parce que vous avez les PNJ du yacht, PNJ donc du ratio, et puis après les PNJ sur Terre, mais ça veut dire qu'il y en a un paquet, donc c'est... pas un scénario compliqué, pour moi c'est un scénario qu'il faut bien préparer au niveau de la galerie des personnages. Voilà, au niveau de l'histoire, vous savez tout, c'est assez rapide, enfin quasiment. Donc voilà, voilà mon petit tour. Bon, j'ai fait plus court que. Mais je suis toujours trop vite, j'ai fait un petit quart d'heure. Eh bien messieurs, ça va être à votre tour maintenant. Vous allez pouvoir me poser des questions, tenter de me mettre en difficulté. Ou alors vous vous pâmez après mes explications combien horrifique.
Non, déjà ça donne envie. Déjà ça donne envie parce que c'est progressif.
D'accord. Alors, avez-vous des questions, des remarques, des mais non, Vonve, c'est tout pourri parce que paf paf, ou alors ah mais oui, c'est super. Non?
Dis-moi. Si, si. Est-ce que on utilise le houlement de la mer, ou est-ce que le temps, on peut l'utiliser, est-ce que c'est prévu un peu dans le scénario, par exemple, comme par hasard, quand le Rafio vient recueillir, comme par hasard il pleut des cordes, ou avec des glissants, ce genre de choses.
Ce que je me rappelle, après tu fais un peu ce que tu veux, mais moi je me rappelle que j'avais fait tomber une putain de brume, mais alors la Costa, attendez, navigateur, au fond. Ah, et puis une invocation. Il y en a quand même un qui fait des trucs un peu bizarres. Ah, putain. Ah oui, revoir. Il met dans le scénario revoir les trois aliens. Ah non, c'est peut-être un des PNJ qui invoque le dévoreur. Ah oui, donc c'était peut-être ça. C'est un peu confus mon affaire. Acte 2. Terrestre, n'hésitez pas à prolonger.
Remarque, ça semble plus logique comme ça. Ça donne une explication à toute l'enquête Agatha Christie que t'as faite avant l'arrivée du cargo, quoi.
Ah oui, c'est ça. Puis en plus, quand ils sont récupérés, le mec dit bon, je vous récupère, mais j'ai un gros problème. Que je sais pas que des choses légales, je crois qu'il y a un truc comme ça. Non, il parle pas trop. Ouais, parce que quand il crie et tout ça, en fait, personne ne répond. T'as un énorme cargo, 3-4 fois gros comme le. Comme leur bateau. Ah oui, parce qu'ils sont peut-être sur des bateaux de sauvetage, sur des canaux de sauvetage, je me demande. Curieusement, il y a l'ancre, d'après l'inscription abîmée, de la proue, il s'agit de la Mary Flanders. Et il paraît médusé. Ah oui. Il y a des mecs un peu bizarres. Mais je crois pas qu'ils parlent forcément de le temps. Mais de toute façon, à 22h du matin, quand il s'agit. Ouais. Ouais, c'est ça. Oui, pardon. En réalité, je crois qu'ils ont une avarie à cause de l'assassin ou un truc comme ça. Et le fait est qu'ils sont attaqués. Enfin, ils sont. Il y a une tempête qui se lève. Ouais, c'est ça. Il y a pas mal de choses à faire. Sûr, faire attention parce que prenez des investigateurs qui n'ont pas forcément nagé, ça va devenir un peu périlleux. Et tout le monde ne finit pas à l'eau. Ouais, et puis en plus la contrebande, je suis en train de me rappeler, mais la contrebande, je crois qu'elle est au début mes joueurs, ils croient que c'était du. Il aurait été une espèce de drogue ou un truc comme ça. Donc oui, en effet, le temps n'est pas forcément déclaré, mais voilà, c'est le pur effet, c'est ça, quoi. C'est les mecs qui sont paumés et tout, qui crient. Et puis il y a cette espèce de finalement de bateau loin, puis en plus qui bouge pas. Enfin, on sait pas trop parce que avec la mer, mais mettre une bonne mer d'huile et voilà des énergumènes un peu hirsutes qui sortent. Et finalement, je me rappelle mes joueurs sur une fois où je les jouais. Ils sont posé la question de pas faire demi-tour et de se barrer. Parce que quand je leur ai décrit les marins qui les regardaient, je crois qu'il y en avait un qui jouait une femme, il a dit ouais, c'est peut-être pas une super idée de monter, on va peut-être attendre le prochain bateau qui vient nous sauver, quoi. Et bon, dans ces cas-là, vous faites remuer un peu l'eau, vous leur rappelez qu'il y a la tempête et tout, et c'est bon, ils montent. Mais c'est vrai que sur le coup, je me rappelle, ça avait bien fonctionné. De ton côté, Prince Noir, question, remarque?
Alors oui, déjà, je vais dire, ce qui me plaît, c'est déjà cette structure enquête, et puis on retarde l'arrivée du mythe. Ça, je trouve que c'est très bon par rapport aux joueurs, surtout ceux qui ont payé. Donc ça me plaît déjà beaucoup. Ce qui me plaît un peu moins, par contre, c'est le côté tempête. Là, ça, je sens un petit peu le côté Deus Machina, tu vois, le côté c'est magique, ça vous arrive, vous n'avez pas le choix. Et j'avais envie de te poser la question par rapport à la créature, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus maintenant quand je regarde les scénarios du commerce, c'est est-ce que c'est super scripté, ou est-ce qu'il y a différentes façons d'en finir avec le monstre? Est-ce qu'on est obligé de l'affronter? Est-ce qu'on peut lui donner des victimes en sacrifice? Est-ce qu'on peut négocier avec elle? Est-ce qu'il y aura différentes façons d'en finir, ou c'est balisé, il n'y a qu'une façon, ça se termine comme ça et puis pas autrement?
Alors, le coup de la tempête, pour répondre au début, c'est un seul truc, quoi. C'est, t'es pas obligé. Tu peux mettre une avarie, tu peux faire un sabotage ou un truc un peu particulier, que le bateau tombe en cacahuète. Le coup de la tempête, ça permet vraiment de le détruire et de les faire se barrer sur des canaux de sauvetage, quoi. Mais parce que il faut vraiment qu'ils se disent que leur seule planche de salut, si je puis dire, c'est de monter dans ce cargo. Donc, à la limite, tu leur mets une voie d'eau, un truc lent, qui remplit les cales au fur et à mesure. Donc ça, ça se fait. Par contre, le dévoreur, donc le monstre, il n'y a pas vraiment de script. Le fait est qu'il y a des choses à découvrir, là où il se planque et tout ça, avec les ossements, on retrouve les bouts de chair. Par contre, le fait est qu'il a toute l'attitude d'espagner dans le bateau. Donc ce qui fait que, moi je me rappelle que les deux fois c'était fini, je dirais, différemment. Il est un peu imbutable. On peut le choper si vraiment on fait un putain de piège avec du feu, machin, des trucs comme ça. Mais il est très difficile. Le fait est que s'il joue bien, il faut pas que les investigateurs se doutent qu'il est invincible. Genre, quand il se prend un pruneau au début, moi, les premières fois, je me rappelle que... Enfin, je le faisais disparaître, quoi. Comme si il se barrait parce qu'il était blessé. Genre, il avait rien, mais bon, il se barrait parce qu'il avait pas envie de se prendre des pruneaux dans la gueule pendant une soirée entière. Et donc les joueurs, ils sont tout fiers, ils font « C'est bon, avec mon Colt, on va pouvoir faire reculer cette engeance de l'enfer, ouais, t'as raison. » Donc, dans mon esprit, moi, c'était pas scripté, et quand je relis un peu, c'est pas scripté. Par contre, ce qu'ils mettent, c'est que tôt ou tard, les PJ comprendront qu'il n'est pas sage d'affronter le monstre sur son terrain. Il faudra donc regrouper survivants sur le pont et prier pour que la bête reste en bas. Ce ne sera pas le cas, logiquement, elle devrait avoir grandi au point de se sentir à l'étroit dans sa chaudière. Donc au début, elle est plutôt planquée, et voilà. Et puis c'est ça, non, ils seront groupés à la pro. Ouais, c'est ça. Donc en réalité, moi, c'était un peu l'idée, c'est-à-dire que au début, elle est planquée, ça fait longtemps qu'elle n'a pas bouffé. Elle va commencer à grailler dans la soirée, ou même ça peut être sur plusieurs jours, hein, si tu veux pas se trop scripter. Et au fur et à mesure, elle va devenir de plus en plus grosse et elle va devenir de plus en plus téméraire. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle est un peu la hyène, quoi. Elle va évoluer. Ce qui fait que les joueurs, par exemple, au début, ils vont peut-être essayer de bloquer pour pas qu'elle monte. Et finalement, au moment où ils se diront, on va aller la chasser, elle aura assez évolué, assez bouffé pour se dire, moi je reste plus en bas, mais je vais aller les titiller. C'est pas, je vais en choper un, je vais en croquer un, quoi. Donc de ce point de vue-là, tu peux le faire évoluer, c'est assez sympa. D'autres remarques ?
Non, bon, moi c'est bon.
Parce que je réfléchis encore, les pêcheries, ouais. Bon, en plus, il y a un PNJ qui s'appelle Gabriel Doll. Doll.
Ça, c'est pour le job, quoi.
Voilà, c'est... Non, parce qu'après, ouais, on peut suivre, je sais plus trop qui. Bon, sur Terre, c'est pas terrible. Donc voilà, là, les poissons se ouais, en plus après ils font revenir les profonds. Bon, la fin du scénar, c'est en gros les investisseurs. Ouais, acheter des armes, voilà.
Non mais c'est pas mal parce que ça commence de façon croisière s'amuse, ça vire un peu les incorruptibles parce qu'il y a une histoire de trafic et puis à la fin c'est alien quoi.
Voilà, le problème c'est si tu fais jouer l'acte 3, tu reviens sur des incorruptibles. Donc dans l'ordre. C'est ça qui me chiffonne un peu, c'est que l'acte 3, après le climax qui est la fin de l'acte 2, c'est un peu bizarre. Quoi. Ou alors peut-être que ce qui est mieux, c'est peut-être baisser la tension dans l'acte 2 et finalement, comme ça, glisser vers l'acte 3, faire une bonne grosse attaque de profond en ville, dans non, le port où il y a...
T'as raison, c'est un problème, c'est un espèce de faux rythme, quoi. Ça me fait penser au Seigneur des Anneaux, quoi, un petit peu, quoi. Quand Saruman, il a plus de pouvoir et qu'il va faire chier les hobbits, quoi, alors qu'il y a eu la grosse bataille, etc. Non, non, moi aussi, je pense qu'il vaut mieux faire comme t'as dit, s'arrêter à l'acte 2, là, c'est bien mieux.
Donc, c'est à vous de voir, mais voilà. Donc, moi, ouais. Je me demande si, en fait, l'auteur n'a pas voulu rajouter une couche à l'horreur dans l'acte 3 où t'apprends qu'en fait le monstre en fait c'est de la faute à l'homme au final, tu vois. C'est toujours ce moment où tu te dis ouais certes c'est un monstre mais c'est un humain qui l'a fait popper, donc je me demande s'il n'y a pas une recherche comme ça.
C'est vrai, c'est pas con, parce qu'en plus je crois que c'est un espèce de liqueur qu'ils mettent dans le whisky ou je sais plus trop quoi. Ouais non t'as raison, c'est peut-être finalement la justification finale et du fait de s'être un peu emballé dans l'acte 2. Et la fin de l'acte 2, finalement, il a été obligé de conclure, mais ça fait bizarre, quoi. C'est assez étrange. Alors, messieurs, avez-vous encore des questions, ou alors on passe à la notation ?
Non, c'est bon pour moi.
Non, c'est
Bouddha. Bon. Ah, qui perd ? Ok. Donc, 2 à 5, si tu devais la faire jouer ou la jouer ou Dark Keeper, tu mettrais combien?
Moi, je pense que je mettrais un bon 4. Tel que tu nous le décris, il y a l'air d'avoir une super ambiance.
Ouais.
Je suppose que ça, tu dois avoir tous les détails, parce que apparemment il fait quand même 16 pages ton scénar, donc à mon avis ça serait
ouais.
Pas en 3 phrases et tu dois
bien détailler, ouais.
Donc tu dois bien pouvoir amener ton ambiance. Et... Ensuite, j'aime bien effectivement la continuité des scènes, le côté Agatha Christie, un peu la croisière s'amuse, puis ensuite effectivement le bordel des incorruptibles, des mecs plus que louches que t'as même pas envie de serrer la main, et ensuite
et qui viennent te sauver,
c'est ça le pire, une séquence à la Alien derrière. Oui, non, ça a l'air vraiment vraiment sympa. Et puis enfin, on en parle pas souvent, mais le titre il claque quand même, hein.
Ouais,
et c'est vrai que
ça vend, quoi.
Ça contribue beaucoup, je pense, parce que si ça s'était appelé le pseudo alien dans le bateau,
voilà, exactement. Non, c'est pas con, t'as raison, parce que le côté titre joue pas mal, et c'est vrai que les gens ont entendu parler de Yacht Rafio et les Caravales. Et de ton côté, alors, j'ai un petit 4 du côté de Dark Keeper et du tien, Prince Noir.
Ah, alors moi, fidèle à ma réputation de pourri, d'ordure, hein, de méchant, je vais être un peu plus sévère. Moi, je vais mettre 3. Effectivement, tu m'as donné envie d'y jouer, c'est très bien les portraits, la montée crescendo, mais de suite, moi, il y a deux choses qui me gênent. Alors, je sens le côté un petit peu scénario des années 80, je sens quand même le chemin un peu balisé, et ça me gêne, déjà.
Ah.
Et de deux, c'est les 16 pages. Moi, je suis désolé, mais quand il y a trop de pages, c'est qu'on n'a pas réussi à synthétiser et aller à l'essentiel. Et comme moi, chaque scénar, je suis obligé de les réadapter pour mes joueurs, j'aime avoir, tu vois, le minimum possible pour moi, adapter, combler, faire mes propres trucs. Donc dès qu'un scénar il commence à avoir 10-15 pages, je dis oulala.
Attends, Prince Noir, tu peux pas me dire ça. Tu peux pas me dire que c'est un scénario des années 80 linéaire. Il faut pas se tromper. La linéarité, c'est. La linéarité, voilà. Bon. Ce que je veux dire, c'est que.
Non, mais ce que j'appelle
un bouquin d'Agatha Christie, c'est linéaire. Un scénario de Colombo, c'est linéaire. Mais
oui, c'est, pas
c'est le fait. C'est le fait d'aller du point A au point B qui est intéressant. Comment ils vont le faire? Je suis d'accord avec toi que quand ils sont sur le bateau et qu'il y a le meurtre, ils vont résoudre le meurtre forcément. Ah, un problème sur le bateau, bah tiens, comme de par hasard, mais. Enfin, ce que je veux dire, c'est, je comprends ton argument, mais pour moi, c'est pas recevable dans le cadre d'un scénario que j'appellerais linéaire.
Alors, je précise, c'est pas le fait d'aller de A à B, si c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Moi, ce qui me pose le problème, c'est pour la fin, tu vois, pour le combat ouais. contre la créature, si je n'ai qu'une solution, pour moi, c'est pas bon.
Ouais.
Tu vois, si je peux que faire, eh ben on n'a pas le choix parce qu'elle est devenue trop puissante et il faut forcément la crever. Là, moi, j'aime avoir l'option 2, l'option 3, parce que mes joueurs, je peux jamais prévoir à l'avance ce qu'ils vont faire. Donc, si j'ai un scénario qui me présente juste une seule solution, pour moi, c'est une faute de l'auteur. Voilà,
ouais.
C'est un avis personnel.
Alors, je dirais que je l'ai peut-être mal défendu de ce point-là, mais je pense que c'est très ouvert à la fin. Et le gros intérêt aussi, c'est que tu fais un peu grossir la créature à la vitesse qu'il te souhaite.
D'accord.
Et de fait, comme... Vous l'avez, je crois que c'est toi Dark Keeper qui l'a dit, mais de fait, tes joueurs, s'ils ont un minimum de culture, ils vont tout de suite penser à Alien. Et moi, je me rappelle que quand mes joueurs, ils ont commencé à penser à Alien, aussitôt, ils regardaient toutes les bouches d'aération, machin, dans le bateau. Ils commençaient à flipper leur race, alors que le monstre, au début, il était dans sa chaudière en train d'attendre qu'il y ait un mec qui vienne tripoter la chaudière pour le croquer, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, c'est... Je dirais que... Est-ce qu'on pouvait faire de bon dans les années 80? Voilà. Pour le défendre, c'est que c'est un scénario années 80, mais c'est ce qu'on pouvait faire de bon, de vraiment très bon même. C'est-à-dire, on va faire qu'on résolve un crime, on va résoudre un crime. Il va falloir qu'on traque une bête dans un bateau, on va traquer une bête dans un bateau. Mais c'est pas comme les premiers scénars, comme Un tigre dans la malle et tout ça, avec scène 1, scène 2, scène 3, scène 4... Là, c'est vraiment, il y a des événements qui vont se dérouler, vous les faites intervenir un peu comme vous voulez, et puis vos joueurs, vous les laissez enquêter. Et moi, c'est pour ça que je te lis, hein, parce que ouais, l'enquête, elle avait duré vachement longtemps, parce que ils faisaient des interrogatoires croisés, machin, c'était n'importe quoi, putain, j'ai mis des plombs à m'en sortir. C'est forcément, quand tu mets plein de PNJ, ah, mais on n'a pas parlé, elle a compté ce machin, ah, non, mais on s'en fout. Tu fais une bonne bouffe, tu fais des soirées qui se terminent avec du cherry en train de discuter et tout ça. Mais je suis d'accord avec toi, C'est quand même un scénario des années 80, mais franchement, c'est à faire. C'est assez long, donc ça se fait pas sur le pouce, mais franchement, c'est à jouer, quoi.
En tout cas, tu l'as bien défendu, t'as donné envie, quoi.
Ah oui, je crois que je l'ai fait jouer deux fois, je crois, au total. Donc ça, c'était ma première partie. J'espère que ça t'a permis, Dark Keeper, de te reposer un petit peu.
Ouais.
Et car, bon, tout le monde ne sait peut-être pas parce que vous ne suivez pas TOC. D'ailleurs, la personne là qui a mis son logiciel, là, je suis en train de regarder pour les podcasts, là. Et ça a l'air un peu compliqué, là, un logiciel sur Android. Et c'est vrai qu'il n'y a que 4 podcasts qui remontent. Je vais regarder, hein, pour qu'il faut que tout le monde puisse accéder à TOC. C'est un peu comme la... Enfin, je dirais l'eau, l'électricité. Tout le monde doit avoir accès à TOC, quel que soit le device. Donc, si vous ne savez pas ce qu'il va...
capacité, hein, parce que moi, par exemple, moi, j'ai 20% d'informatique, tu vois, j'ai un minimum, alors tu vois, c'est pas évident, hein, pour maîtriser les logiciels. Hein.
Et tu t'en sors? T'arrives à accéder à TOC?
Difficilement.
En fait, en parlant de ça, ça m'a fait marrer, c'est que le concours là, que je suis en train de noter sur... trouver une page la plus paumée dans TOC, ça m'a fait assez marrer parce que sur le coup j'y avais pas pensé, mais il y a plein de gens finalement qui sont mis à fouiller dans TOC. Et c'est assez marrant parce que TOC est assez mal branlé par certains côtés, et il y a plein de gens qui ont découvert des trucs en justement cherchant une page paumée. Et j'ai eu quelques remarques du style ah putain, mais j'avais pas vu, il y avait une page là-dessus, il y a un article là-dessus.
Bon, c'est un truc tentaculaire.
Ouais, c'est vrai, ouais, trouver objet caché, ça porte bien son nom. Donc, on va passer clair, sur toi, clair. Dark Keeper. Je vais te laisser introduire le scénario.
Ouais.
Enfin, la mini-campagne dont tu vas parler. Il est à ma montre Seiko Quartz. Il est 21h48. Ouais, donc, tu vois, moi j'ai fait 10 minutes, un quart d'heure. Il n'y a pas de souci, hein, parce que tu fais comme tu le sens. Donc, je te laisse la parole.
Ok, c'est parti. Voilà, Terre de Londres. Jusqu'ici on a parlé dans les autres podcasts pas mal de campagnes. Là je vais vous parler plutôt d'un cadre de campagne. Donc pour comprendre de quoi on parle, un cadre de campagne concrètement c'est un décor et un contexte qu'on va mettre dans un JDR pour jouer au même JDR mais pour lui donner une autre saveur. À ta santé.
Vous avez entendu l'eau?
Oui, j'ai entendu l'eau.
Vas-y, pardon.
Ce n'est pas grave. Donc, les mystères de Londres, comme son nom l'indique, permet aux investigateurs donc de jouer à Londres.
Juste une chose, c'est chez qui?
Justement, c'est
pardon,
ce que je voulais dire
précisément
tout de suite. C'est de chez Septième Cercle, c'est du système Gumshoe. Donc, je vais pas m'étendre sur le système de règles parce que... Je vais quand même vous parler de profession, de compétences, éventuellement de niveau de vie. Mais je pense que même s'il y a un certain boulot à faire pour le convertir en ADC, je pense que ça vaut la peine. Donc, du fait que vous ayez entendu les mystères de Londres, je suis sûr que beaucoup d'entre nous ont sauté dans leur siège et ont tout de suite pensé à...
Oula,
oui. Il y a quelque chose là. Tout se passe bien?
Non, oui, c'est bon. C'est bon, excusez-moi, il y a eu une coupure. C'est du fait que ça s'appelle les mystères de Londres, ça se passe à Londres.
Oui, du coup, et beaucoup de personnes ont dû immédiatement penser à Cthulhu 1890.
Yes.
Évidemment, le comparatif va se faire, forcément. Donc ce qu'il faut savoir malgré tout avec la gamme du 7ème cercle, c'est que déjà que ça se passe dans les années 30 et pas dans les années 20, donc il y a la Grande Dépression qui est passée par là, et ça va justement influer sur le contexte. Alors je vais vous présenter le contexte des Mystères de Londres.
Ah, c'est intéressant ça, ouais.
C'est la première différence avec Cthulhu 1890, c'est que Cthulhu 1890, vous allez jouer, on peut faire du Sherlock Holmes avec, on peut faire beaucoup de choses différentes. Les Mystères de Londres se centrent sur l'industrie des livres occultes, parce que c'est une industrie, monsieur. Et c'est une industrie en plein essor, et pourquoi, je vais vous le dire. Parce qu'il y a deux phénomènes amenés par la Grande Dépression. Le premier, c'est un phénomène économique, c'est les grands collectionneurs de livres occultes, et ben ils sont sur la paille, donc ils sont obligés de vendre leurs bouquins pour gagner leurs deniers pour survivre. Et à côté de ça, du fait que c'est la crise,
Il y a une remontée théologique, et il y a beaucoup de gens qui se mettent à diverses croyances, qui se mettent à l'occultisme, donc il y a une forte demande des bouquins. Donc, vous vous doutez bien que parmi tous les bouquins d'occultisme qui tournent,
Ah, sympa ça.
il y en a un ou deux qui vont parler du mythe, et qui ne sont pas si faux que ça, et que les choses vont rapidement tourner au vinaigre. Dans ce contexte, les joueurs incarnent des chasseurs de livres, donc c'est des personnes qui peuvent avoir différents métiers, mais toujours basés autour du livre, dont l'activité principale en général, ça va être de rechercher un bouquin qu'on nous demande ou de revendre des bouquins. Donc le premier chapitre des Mystères de Londres s'intitule Chasseurs de livres justement, et permet.
Sans vouloir faire une remarque désobligeante, c'est un peu le rôle de Johnny Depp dans la neuvième porte.
Oui, c'est complètement ça. C'est du Dan
D'accord.
Corso, 9e porte. C'est
D'accord, pour se donner une idée. Ouais.
oui, c'est vraiment ça, quoi.
C'est pas désobligeant, il est très bien la neuvième porte.
On en
Après,
reparlera.
voilà, on en reparlera.
Pour dormir, c'est très bien.
Exactement.
D'accord,
Mais
donc première partie.
je vous garantis que les Mystères de Londres, ça peut être un peu plus, un peu mieux que ça. Hein. Je m'étendrai pas là-dessus.
Ne laisse pas déstabiliser, pardon.
Premier, oui, je sais. Premier concept. Les joueurs vont bien sûr créer leur personnage. Il y a des nouvelles professions qui sont présentées par rapport au livre de base du Gumshoe, qui sont le libraire, l'agent de collection, le faussaire et l'occultiste. Et en plus de créer leur personnage, les joueurs vont créer une librairie qu'ils tiendront ensemble. Et ça,
Ah, sympa
c'est
ça.
génial.
Ah, c'est bon
Ça donne
ça.
une raison aux joueurs d'être
Ouais,
ensemble.
très très bon.
Il y a des mécaniques de jeu autour, parce que, comme les joueurs, la librairie a un niveau de vie, donc un niveau de richesse. Donc, la librairie, ça peut aller de la charrette pleine de livres à la librairie luxueuse dans la Grande Allée. Et selon le niveau de vie, ben, ça va amener à évoluer. Et dans une librairie, il y a des clients, il y a des concurrents, il y a des.
Ah, ce qui veut dire que t'as les deux pendants, t'as acheteur et vendeur.
Voilà.
Ah putain, ouais.
Et on est vraiment sur un bon concept parce que la librairie va attirer des gens. Donc, ça donne une raison, par exemple, vous savez, ça évite de trouver l'oncle de nulle part ou la personne qui ne veut pas vous voir pour une raison obscure. Là, c'est typiquement un client dans une boutique qui peut éventuellement vous demander de chercher un livre, c'est votre boulot. Donc, c'est super pour faire des intros, ça donne un cadre très précis.
Est-ce qu'il donne des exemples de librairies ou pas toutes
Oui,
faites?
oui. Il y a
D'accord.
on nous donne des exemples de librairies qui ont vraiment existé. On nous donne des descriptions selon le niveau de vie. Par exemple, je vous donne juste le niveau de vie zéro, pas d'adresse fixe, une charrette de livres sous Waterloo Bridge, ou un étal sur un marché dans l'East End, un fond moisi est dévoré par les vers, même les journaux à sensations sont souillés par l'humidité et d'autres matières innommables. Donc, il y a vraiment moyen de faire des choses sympas. J'ai fait une campagne avec les Mystères de Londres. Mes joueurs avaient un niveau de vie 2. 2 en général, c'est une chambre de bonne, concrètement. Et ils voulaient de l'espace. Donc ils se sont dit, on va squatter un entrepôt sur les docks de la Tamise, dans le coin pourri. Ce sera pouilleux et humide, mais au moins on aura de la place.
Le début du loft, quoi.
Voilà, quoi. Et ça a donné des moments géniaux à base de planchers qui cèdent sous la Tamise, enfin bref.
Parce qu'on joue la création, enfin, on joue finalement la création de la librairie.
Oui, et là aussi, le livre va même plus loin. Chaque joueur peut créer un habitué. C'est-à-dire que chaque joueur va créer un PNJ qui est un habitué de la boutique. Outre le fait que ce PNJ puisse être une mine de renseignements, ça permet également au maître joueur, c'est toujours des personnages qu'il peut utiliser. Et puis, quand vous créez un personnage, vous le connaissez. Voilà, c'est juste ça.
Par contre, juste pour savoir, parce que T'essaies de te dissimuler, mais il y a du narrativisme quand même. Mais
oui.
Est-ce que le gardien crée aussi, est-ce que le maître du jeu crée aussi une personne de la boutique ou pas?
Alors, la librairie peut être tenue par un libraire si un joueur a pris la fonction libraire. La librairie ne peut être tenue par aucun libraire. Ou alors, le maître joueur peut créer un libraire qui dirige la librairie. Ça peut être sympa, ça permet à la boutique de tourner pendant que les investigateurs sont ailleurs, etc.
D'accord.
Donc, c'est vraiment très libre. Le narrativisme, je vais mettre les points sur les i tout de suite. La gamme Gumshoe, c'est du Kenneth Haidt, c'est Eddie Robin Dillo. Dans le cas présent, l'ouvrage a été écrit par Kenneth Haidt. On est vraiment sur quelque chose, c'est pas du narrativisme, mais on est quelque chose de plus, effectivement, qui tend plus vers le narrativisme que la gamme de la DC, Chaosium, etc. Donc effectivement, les joueurs qui se disent « bon, moi je crée mon personnage et après j'attends, c'est le maître joueur qui fait tout », ils vont peut-être grincer des dents parce que là on va leur demander de faire un petit peu plus.
Est-ce que ça rappelle un peu, je sais pas si t'as entendu le dernier Poulpièce où Desprite parler de l'affaire Armitage, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que finalement ça pose pas des...
Non. Là, le narrativisme s'arrête à la création de détails et de PNJ secondaires, qui peuvent devenir principales si même j'y veux, mais non, là le scénario, on n'est vraiment pas sur l'affaire Armitage.
D'accord.
Donc ensuite, on nous présente toute la scène la scène du livre. Donc on nous présente les livres principaux, les commerces, comment trouver un acheteur. On nous présente même le jargon de la chasse aux livres. Ah oui, si vous voulez, vous rechercherez ce qu'est un fruit vert, c'est très amusant. On nous présente également les ventes aux enchères, parce que les livres tournaient beaucoup autour de la vente aux enchères, avec pour les enchères dramatiques des mécaniques de jeu liées que j'ai testées et qui fonctionnent super bien.
Du style
à base de... Faudrait que j'explique un petit peu le système Gumshoe. En gros, le système Gumshoe, vous avez des points dans des compétences. Et si vous voulez un indice, vous l'avez. Dépenser les points, ça sert juste à avoir des
détails en plus
supplémentaires.
Ouais, des infos supplémentaires, un gain de temps, le bonus peut prendre une nature différente. Là, utiliser les enchères, ça va être des dépenses de points en niveau de vie pour savoir si on remporte l'enchère ou non, quoi.
D'accord.
Et ça peut être. Et effectivement, comme on ne sait pas en face le niveau de vie de l'autre, c'est vraiment de la spéculation. Est-ce que je dépense mes points? Est-ce que je les dépense pas? Enfin,
en plus, tu joues l'avenir de l'équipe, quoi.
Tu peux jouer l'avenir financier parce que si tu dépenses plus de points que ce que t'en as, après, il faut donner la mode quand même. Hein.
Tu peux mettre des créanciers, qui viennent récupérer l'argent, tu peux te marrer, quoi.
Ça, c'est mon horloge, n'y prêtez pas attention.
Putain, c'est l'ambiance.
On savait que ça allait te plaire, bon.
Il y a des mécaniques qui sont expliquées, comme par exemple, je vous en donne une, hein, le feu d'enchère qui consiste à surenchérir au maximum pour faire flamber les prix sans acheter. Typiquement, là. En général, c'est parce qu'on est en lien avec le commissaire priseur et parce qu'on a envie de se faire plein d'argent. Voilà. Les bibliothèques sont également présentées.
Ah, intéressant ça. Il y a les plans et tout.
Je viendrai aux plans. Mais effectivement, il y a certains plans. On nous présente quelques livres occultes historiques, des livres qui ont vraiment existé, comme l'Albrome, le Livre des Morts, etc. On nous présente quelques livres du mythe. Ça, par contre, je ne sais absolument pas s'ils ont vraiment existé ou non. Je pense que non. Hein, mais... Ensuite, on nous présente le Londres des années 30. Oui, je parle vite parce qu'il y a beaucoup de choses.
Mec.
Le Londres des années 30, concrètement, on te le présente en 20 pages. Quand vous voyez à côté Cthulhu 1890, vous dites 20 pages, ça fait peu. Alors,
face à 440, oui, c'est vrai.
Vous avez, dans ces 20 pages, on vous présente Londres quartier par quartier, mais on vous présente plus l'ambiance des quartiers que les quartiers eux-mêmes. Je m'explique. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver comment les gens s'habillent, où sont les marchands de chaussures, où sont l'alimentation générale ou autre. On va vous donner, en gros, vous, par exemple, je prends un quartier. Vous avez un gros paragraphe pour décrire le quartier. Des informations liées à certaines compétences. Donc en gros, quand vous présentez le quartier, s'il y a un joueur qui vous dit « j'aimerais en savoir plus », tu peux lui dire « en utilisant archéologie, je peux t'en dire plus ». Et tu as les informations qui sont toutes données. À noter que dans ces informations, il y a également des informations liées au mythe, dans tous les quartiers. Ce qui donne une petite anecdote de quartier liée au mythe de Cthulhu, ce qui peut faire l'objet d'un scénario si on est en panne d'idées ou d'une sorte de quête secondaire dans la campagne si les joueurs veulent souffler. Ensuite, il y a des contacts. On nous dit qui traîne là-dedans, qui traîne dans le quartier, qui est-ce que vous êtes susceptible de rencontrer. Barman, mendiant, Bobby, courtier, factotum, etc. Selon les quartiers, ça varie. En général, il y a une grosse description. Après, il y a, si le personnage est présent dans un autre quartier, il y a juste un CF. Et il y a des spécificités selon les quartiers. Par exemple, l'interne en médecine de la City, il ne va pas traîner dans le même hôpital que l'interne en médecine dans le quartier pourri de l'East End. Donc oui, 20 pages. Et enfin, après les contacts, vous avez des rumeurs. Qu'est-ce qui se dit dans le quartier? Et avec ces trois choses-là, vous pouvez monter un quartier vivant, qui ne sera pas un quartier historiquement exact, mais un quartier qui fout dans l'ambiance. Et vous aurez vraiment l'impression d'être dans le quartier, même si ce n'est pas au trottoir près, si vous voyez ce que je veux dire. Après ces 20 pages, une autre vingtaine de pages qui présente Londres et le... En gros, Londres et le mythe. Donc, il y a beaucoup de liens qui sont faits avec le livre de base pour présenter, par exemple, les cultes de Cthulhu, où est-ce qu'ils sont, le culte des sorcières, où est-ce qu'ils sont, etc. etc. On nous présente trois cultes qui sont exclusivement londoniens. La confrérie du pharaon noir, les guerriers chéreux, que personnellement j'adore.
Lequel, le dernier présente...
Oui, le Kairosheir, quand on sait ce que c'est juste magique. Ensuite, on nous présente une divinité qui s'appelle Rantegoth, qui n'est pas présente dans le livre de base de Gumshoe, mais qui, si j'ai bonne mémoire, est présente dans le livre de base de l'ADC. Mm. Donc là, c'est une page entière de différentes définitions de Rantegoth. Ensuite, on nous présente certains monstres de Londres. Donc, il y en a une petite dizaine. Il y en a certains qui sont vraiment dans l'ambiance, comme les choses poussières, les vampires de feu ou les chiens liches. Il y en a d'autres, j'ai un peu plus de mal à voir ce qu'ils foutent dans Londres, comme les habitants des profondeurs, mais ça peut toujours servir. On nous donne des liens avec les créatures du livre de base. Ensuite, on nous présente une magie optionnelle qui s'appelle la mégapolysomancie, sur laquelle je reviendrai plus tard. Je ne l'ai pas fait jouer, je ne vais pas m'y attarder. Ensuite, on a une dizaine de pages pour créer une campagne, et ça se voit vraiment avec les livres de... souvent les livres de la gamme Gumshoe, et c'est ça qui est génial, c'est que vous avez des conseils, et blindes de conseils. Donc, loin d'être paumé, on vous présente trois styles pour colorier un peu vos campagnes. Donc le style abracadabrantesque. En gros, c'est Londres Bagdad dans la Tamise. Londres, c'est une ville tellement compliquée où il peut se passer n'importe quoi. Typiquement des cultes à chaque coin de rue, des choses qui sortent de nulle part, On cherche pas le réalisme dans le Londres abracadantesque, c'est vraiment tout peut arriver. Ensuite, on nous présente le Londres sordide. Bon, le Londres sordide, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. On a tous vu des films de Jack l'Éventreur ou autre, donc on se devine assez bien ce que c'est. Et enfin, on nous présente une coloration Technicolor, qui est en gros la version prestigieuse de Londres.
Il y a encore un peu de faste quand même.
Oui, mais
un petit
en
peu,
gros,
ouais, d'accord.
dans le Technicolor, tout est exagéré. Les bibliothèques sont gigantesques et pleines de bouquins. Vous savez, ces films, par exemple, où quand vous voyez une bibliothèque, vous dites, c'est pas possible, comment ils pourraient lire tout ça, quoi. Là, c'est exactement ça. C'est un genre de, typiquement, des égouts à ne plus en finir. Des
Côté
monstres qui
démesuré,
rendent.
quoi,
Voilà, tout est démesuré, c'est le mot, démesuré. Ensuite, on nous présente la notion de dramatis personae, en gros la notion de PNJ récurrente, et comment l'utiliser dans ce cadre de campagne. On nous donne donc des exemples de PNJ. On nous donne des conseils déjà pour créer un scénario. Et parmi ces conseils, on sent un petit peu, malgré tout, faut pas le cacher, la patte narrativiste, parce que quand on lit des titres comme Aventure inspirée par les joueurs, je peux deviner que ça fasse grincer des dents. Personnellement, j'adore l'idée.
Bon, reste calme, hein, reste calme.
Mais oui, ça permet vraiment de profiter de l'imagination des joueurs pour en faire plus, quoi. Et quand t'as un cadre qui est bien fixé, et que t'as des joueurs qui ont créé leur propre PNJ, qui sont vraiment l'impression d'être chez eux dans leur librairie et qui sont vraiment dedans, ils ont toujours à avoir des idées auxquelles nous, maîtres joueurs, nous n'avons pas pensé, et c'est à nous de reprendre ces idées sournoisement pour les réexploiter. Ensuite, il y a le scénario, Lettres noires à Whitechapel. Le scénario, concrètement, c'est. Bon. Attention spoiler, mais je pense que vous avez compris, Whitechapel, on sait que il y aura un lien avec Jack l'Éventreur, mais
Oh
c'était un
mon
scénario.
Dieu!
Ah oui, on ne l'aurait pas du tout deviné. Enfin bref, toujours est-il que je ne l'ai pas fait jouer, mais de lecture, ça a l'air d'être un très bon scénar. Exactement, apparemment assez classique pour le cadre de campagne. Donc ça commence par un mec qui nous demande de retrouver un bouquin. Ensuite, finalement, on va s'apercevoir que les gens qui détiennent ce bouquin sont pas détendres. Et on découvre le premier propriétaire du bouquin, on se dit, ok, ça sent très mauvais. Et enfin, on se dit, ça finit par une vente aux enchères.
C'est pas mal comme point d'orgue, ouais.
Une belle vente aux enchères avec des PNJ assez hauts en couleur. Et comme souvent dans les scénarios de Kenneth Height, il y a une grande liberté qui est laissée au maître joueur. La trame principale reste la même, mais il y a beaucoup de détails sur laquelle il y a plusieurs pistes qui sont données. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans le scénario, vous allez rencontrer, ou pas, ça dépend du maître joueur, un personnage qui s'appelle Birgit von Kant. On nous le dit, Franco, quel est le véritable projet de Birgit? C'est au gardien d'en décider, choisissez parmi ces options ou mélangez-les. Et on vous donne plusieurs options, et après, libre à vous de prendre celle qui vous semble la meilleure. C'est un excellent point que le scénario est très adaptable et peut servir de premier chapitre pour une campagne, dans le sens où il n'est pas du tout dirigiste ou qu'il ne donne pas le ton de la le ton de il ne vous impose pas un ton pour une campagne. Après, le petit reproche qu'on peut faire au scénario trop modulable entre guillemets, bien que je ne pense pas que Lettres noires à Whitechapel tombe dans ce travers, c'est qu'un scénario trop modulable perd son identité. Pour revenir à, par exemple, à Raffio, Yacht et Liqueur d'Algues, je pense qu'il a le succès qu'il a parce que justement, c'est parce qu'il n'y a pas 30 versions différentes de ce scénario-là, quoi. Mais donc, et dans ce scénario, je ne vous le cache pas, on nous présente une version de Jack l'Éventreur avec le petit bloc de Carrack, au cas où il y a des PNJ qui se sentent un peu trop téméraires. Hein. Et
Ne pas
enfin.
Jouer une femme.
Et enfin. Et ne pas traîner à Whitechapel non plus. Et enfin, vous avez. Ce que je ne dise pas de bêtises. Une quarantaine de pages. C'est que des cartes.
Putain.
Oui, le matériel en carte est énorme. Vous avez le Londres des années 30, quartier par quartier. Vous avez les plans de la National Gallery, les plans du British Museum, les plans de l'Underground.
Oh putain,
c'est du lourd. C'est du gros
lourd. Très sympa.
Et vraiment exploitable.
Et une version, sur le site du 7e Cercle, vous trouvez les PDF pour les imprimer. Les plans, notamment le Londres de quartier par quartier, sont faits en sorte que quand vous les assemblez, vous pouvez obtenir vraiment le plan de Londres sur la table.
Ah putain.
Et c'est, on peut jouer sans, bien sûr, mais avoir le plan de Londres sous la table, ça permet déjà aux joueurs de situer leur petite librairie quand ils commencent. Ouais, tiens, on va être là. Dans ce et ça permet de prendre aux joueurs de prendre conscience que Londres, c'est quand même bien grand. Et ça va me permettre de revenir sur la petite magie optionnelle, la mégapolisomancie que j'avais éclipsée.
Ouais, mais on avait noté que tu devais en reparler. Donc avec oui, Prince Noir, on l'attendait.
J'en reparle parce que les cartes, ça donne un véritable intérêt aux cartes, c'est que la mégapolisomancie, c'est la magie des villes. En gros, une ville, c'est une concentration de personnes, c'est une concentration d'énergie qu'on peut utiliser. Les pouvoirs sont laissés à l'appréciation du maître joueur, il y a comment s'en servir, il est détaillé également des effets possibles, et...
T'as des exemples, des trucs comme ça? Ça m'intéresse.
Un simple exemple... Je bouchez-vous les oreilles parce que je risque de spoiler une partie de Lettres Noires à Whitechapel. Ou quoi que c'est du fait historique, les meurtres de Jack l'Éventreur, si vous les mettez sur une carte, ça forme un symbole ésotérique.
D'accord.
Et vous pouvez utiliser ça. Par exemple, vous pouvez tout à fait dire « Ah, ben, dans ce bouquin, il est indiqué qu'à tel endroit, il y a une mystérieuse glyphe. À quoi elle sert ?» Puis quand les gens ils vont se situer sur l'endroit, ils vont faire « Waouh, ça forme un symbole !» Et tous les gens dans la périphérie de cette symbole se transforment lentement en profond. What ?»
Ah, d'accord.
Il y a plein d'idées à exploiter comme ça. Et donc, ouais, sous les yeux.
Ouais, voilà, d'où ça, c'est le super intérêt d'avoir la carte, quoi.
C'est un super intérêt d'avoir la carte. Et évidemment, les rues sont sur la carte sont un peu, évidemment, vu que c'est comme une carte routière, hein. Faut une loupe quand même pour pouvoir lire. Mais
Avec les PDF, c'est lisible.
Et le PDF, c'est tout à fait lisible, et même sur papier, il suffit d'approcher un peu les yeux, et vous voyez tout à fait. Mais ça permet exactement de savoir où on est, ça permet, en tant que maître joueur, de pas avoir à inventer des noms de rue au hasard. ça, c'est un truc qui est génial, quand tu prépares le scénario, tu fais, tiens, il va se passer un truc là, pourquoi pas, je vais les emmener là-bas, et puis quand les gens se situeront sur la carte, ils vont s'apercevoir que en portant cette relique, ils ont fait un itinéraire.
T'as une version joueur et une version gardien ou pas des cartes?
Non, c'est que du vierge. Mais après, par exemple, je suis certain que maintenant, avec par exemple les tablettes, il est tout à fait possible de avec un simple logiciel de dessin, d'avoir sa petite tablette et son plan de Londres dessus, de son côté du paravent, et de noter tout ce qu'on fait, et les joueurs d'avoir le plan en papier au milieu de la table, et ça permet de donner une ambiance vraiment, vraiment sympathique. Et enfin, et après j'aurai fait le tour. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses.
Ça fait combien de pages?
Ça fait 140 pages.
C'est dense.
C'est dense. Hein. Il y a beaucoup de choses. On nous donne quelques prix rares dans les années 30, donc quelques exemplaires de prix, ça permet vraiment de se faire une idée. On nous donne des exemples d'antiquaires bouquinistes à Londres, on nous donne une chronologie de la décennie, qu'est-ce qui s'est passé à Londres d'important, et toute la carte est indexée. Je dis bien toutes les cartes.
D'accord.
Donc il y a c'est pas intuitif à utiliser, ça reste un index lourd. Donc il faut s'en servir en préparation et non pas pendant le jeu.
Ce que tu veux dire par là, c'est que c'est quadrillé et t'as dans I5, il y a ça, d'accord.
Mais ça permet instantanément de savoir quelle rue est où. Et il y a une page dans laquelle on nous donne des librairies avec leurs lieux sur les cartes, des emplacements généraux, où c'est Chelsea, où c'est le Covent Garden, où c'est Forest Hill, où c'est Green Park. La même chose pour des lieux de vente aux enchères. Et enfin, vous avez quartier par quartier les monuments des quartiers qui sont situés. Et en gros, ça permet aussi de voir de quel pan de carte, où est quel quartier. Parce que c'est peut-être le petit truc que je conseille de faire au début. Parce qu'on des fois, quand vous lisez South London, West End ou East End, on n'a pas sur les cartes, on a un peu du mal à voir. Donc c'est très pratique. Et après, bon bah tout est écrit en petit avec les index de secteur et avec une petite bibliographie aussi. On nous dit quelles sont les inspirations. Et voilà, 140 pages. Donc, mon a priori dessus, pour l'avoir fait jouer, c'est vraiment sympa. Personnellement, j'avais fait une campagne avec Nyarlathotep sur fond de thématique égyptienne qui était absolument...
Le secret de la pyramide.
vraiment donné avec la découverte d'un mystérieux pharaon par des explorateurs anglais et son rapatriement au British Museum de Londres. Enfin, il y avait vraiment moyen de faire. Et
t'as fait jouer quoi donc dedans cette campagne-là? T'as fait jouer d'autres scénars?
Non, je n'ai pas pu faire jouer d'autres scénars, et je n'ai pas non plus fait jouer Lettre Noire à Whitechapel. Mais sur cette campagne, c'est là qu'on voit que, enfin, c'est vraiment en jouant la campagne que j'ai compris le potentiel du bouquin, quoi.
D'accord. Bon, bah écoute, je crois que je sais pas trop. T'as peut-être dépassé, mais bon, comme c'est...
Ah, c'est possible, je vais regarder.
Ouais, 18. Oui, je pense que t'as fait 30 minutes, non?
Ouais, j'ai fait 30.
Oh, le salaud.
Ah, c'est bête, tu vas perdre 2 points.
Eh bien, tant pis. Mais bon, en même temps, je veux dire que... L'ouvrage était très dense, alors forcément...
Bah alors maintenant, c'est à nous. Ok. Donc, bon... Pour être sûr, tu travailles pas au 7e cercle?
Non, je ne
bosse pas. D'accord. Non. Pour être sûr que tu n'essayes pas de nous vendre un truc, parce que c'est quand même assez bien vendu, donc je m'étais dit, il faut faire gaffe quand même. On est censé être objectif sur TOC. Sauf moi qui suis tout le temps subjectif.
Bon, je suis peut-être passé un peu vite dessus, mais j'ai quand même relevé les petits défauts que j'avais croisés.
Alors déjà, moi, comme remarque, je sais que le bouquin a été vachement bien critiqué. Je sais que dans les différentes critiques qu'il y a eu sur les sites de jeux de rôle, ça fait partie des ouvrages, comme ils l'ont dit, par exemple, dans un autre style pour le manuel de l'équipement pour la Pelotune V6. Mmh. Beaucoup de gens ont dit c'est un truc qu'il faut acheter si le sujet vous intéresse, parce que c'est cross jeu de rôle, quoi. C'est pas lié à un seul jeu de rôle, c'est vraiment un truc, c'est une brique, quoi. C'est un contexte, comme tu dis tout à fait. Comme remarque que j'ai, quand tu dis que tu n'as pas été, enfin que tout est dedans, est-ce que tu as été quand même obligé de faire des recherches à côté pour monter la campagne ou pas sur Londres?
Non, parce bon après je ne suis pas un maître joueur qui est très exigeant historiquement parlant, donc... Si les joueurs ont besoin d'une boutique de chaussures, je spawn la boutique de chaussures et je cherche pas à savoir si elle a vraiment existé ou non. Mais après, avec le matériel qu'on a là, les ambiances, ça donne énormément d'idées et ça va presque de soi. Et puis après, c'est sûr que ça doit être un peu plus complexe si vous voulez faire de la mégapolisomancie pour, par exemple, pour faire des symboles ou autres sur les cartes. Mais je pense que, personnellement, j'ai pas eu besoin de chercher ailleurs.
Question, Prince Noir? Remarque?
Ouais, non, pas de...
Les rumeurs, oui, je voulais te demander les rumeurs. Oui. Jusqu'à quel point on peut intervenir dessus? Est-ce qu'elles sont bien détaillées ou c'est très court, c'est très synthétisé? Comment ça marche, les rumeurs?
Alors, les rumeurs, je peux t'en lire une, par exemple, ça te donnera vraiment une idée. Rumeur du West End. Une cabale de bibliothécaires a caché une bibliothèque secrète parmi les rayons du British Museum. Ces bibliothécaires sont les seuls à connaître le catalogue des fonds secrets. Ils rangent ses livres, souvent camouflés par de fausses couvertures, en suivant un placement apparemment impropre ou légèrement décalé sur les rayonnages de la bibliothèque. Point. T'en fais ce que tu veux.
Ah putain. Ouais, pas mal.
C'est juste l'idée, quoi.
Ah, mais c'est juste ça, quoi.
Et c'est, voilà, tes rumeurs, ça fait un paragraphe par rumeur. Et mais il n'y a pas besoin de plus, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin de savoir qui c'est les mecs de la cabale du bibliothécaire. Tu tombes sur cette idée, tu fais « Putain, c'est génial. Il me faut un culte qui cache une bibliothèque du mythe dans le British Museum. Je vais faire ça. » Et tac, tu pars là-dessus.
C'est bien, mais en même temps, c'est vrai que c'est pas pour forcément un gardien débutant.
Voilà, ouais,
faut bien enrober le truc, quoi. Faut, ouais, comme ouais. C'est un, comme l'indice, c'est intéressant. Faut pas juste qu'en cherchant dans le, enfin, faut essayer des trucs à distiller habilement en disant voilà, tu cherches un bouquin, mais c'est la deuxième fois. À chaque fois que tu cherches un bouquin, bah, tu devrais le trouver à un endroit et c'est un bouquin différent que tu trouves, ou alors amener des choses un peu bizarres, le mec que tu croises à chaque fois, et mais d'accord. Ouais, donc finalement t'as vachement de matos.
Énormément de matos.
Mais toi tu le qualifierais quand même de d'un ouvrage pour gardien expérimenté.
Je conseillerais, avant de se lancer dans les mystères de Londres, d'avoir fait au moins 2-3 scénarios de Cthulhu, d'en avoir conçu un ou deux avant, histoire de s'être fait une idée de ce que c'est déjà un scénario de Cthulhu, et comment. Et faut, à mon avis, faut déjà avoir une bonne idée de comment ça tourne. Après, s'il y a des gardiens qui sont enthousiasmés par le projet, enfin par le sujet, et qui se disent oh, il faut que j'essaye, ben jouez Lettre Noire à Whitechapel.
D'accord. Toi, tu l'avais acheté pour quoi ? Pour Londres ? Pour le côté novateur du format ou...
Réponse de Joker, c'était un cadeau. Donc, ça m'est tombé sur le coin. Et, enfin, ça, oui, ça m'est tombé D'accord. sur le coin et j'ai fait... Ok.
Et la personne qui te l'a offert, tu sais pas ce qu'il l'a décidé ?
La couverture
est assez sympa en plus.
Ouais, la couverture est très sympa. Les illustrations sont ponctuelles et c'est, je me souviens jamais de son nom, je vais vous le dire, c'est Jérôme Huguenin. Ça fait photoréaliste sans l'être vraiment.
C'est son truc à lui, ouais.
C'est vraiment. Et donc oui, pour revenir à ce que tu disais, en gros, la personne qui me l'a offert aimait juste beaucoup tout ce qui était vieille bibliothèque, vieux bouquin. Donc quand il a lu ça, il fait « Tu me fais jouer ça. »
Je crois que d'ailleurs, ça a pas du tout la tête d'un bouquin de jeu de rôle.
Les Mystères de Londres ?
Ouais, si. Enfin, de la couverture.
Bah après, ça dépend. Honnêtement, en matière de livres de jeux de rôle, en matière de couverture, j'ai vu tout et n'importe quoi. Donc,
ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas. Enfin, je vais vérifier. C'est pas une illustration pleine page.
Si.
C'est
une illustration pleine page.
Attends, avec un bon, peut-être.
Les Mystères de Londres. Et clairement. Bon, après. On voit clairement, c'est ça qui est génial, c'est que ça fait normal entre guillemets, mais dès que tu regardes un petit peu plus près, tu vois le mythe très rapidement. Dans le cas de la couverture des Mystères de Londres, on remarque très vite la statue de Cthulhu en haut à gauche.
Ah d'accord, attends, je regarde parce que je me faisais une fausse idée sur. Attends, l'affaire à mythe. Merde, il est où les Mystères de Londres ?
Je vais te le trouver au pire.
Merde, je le vois pas. Parce qu'il y avait un truc qui s'appelait... Ah non, c'était peut-être le guide ésotérique.
Ah, le guide occulte de Londres ?
Ah voilà, c'est à ça que je pensais, pardon. Ouais. Il y avait des yens, pas de bouquin de jeu de rôle.
Ah oui, non, le guide occulte de Londres, je peux vous en tenir deux mots parce que je l'ai acheté quand après avoir fait jouer ma campagne. Et non, c'est pas du tout un... C'est pas du tout un bouquin de jeu de rôle comme vous l'entendez. C'est une sorte d'encyclopédie.
C'est un bouquin pour adultes ? Ok, je sors.
Non, c'est pas ça.
Il y a des profondes toutes nues.
Non, c'est simplement un mec qui s'est dit tiens, je vais écrire noir sur blanc tous les aspects occultes de Londres. Ça peut aller du simple petit coin de pierre aux organisations et c'est une mine d'informations.
Alors j'ai un truc là-dessus, le truc qui me fait toujours un peu peur, c'est les trucs un peu ouverts. Comme tu dis, tu vas créer des boutiques de chaussures et tout ça. Est-ce qu'on n'a pas tendance à se perdre dans ses propres créations si, pris par l'ambiance, on note pas qu'on a mis un vendeur de journaux ici, et puis un barbier ici, et tout ça. Est-ce qu'on se perd pas?
Non.
Non.
En tout cas, il faut être organisé.
Parce que, oui, là-dessus, vous avez pas un scénario en milieu clos où les joueurs ont un couloir à suivre et point. Mais en général, vous avez un scénario, donc vous avez quand vous avez créé votre scénario, vous avez les lieux phares avec ce qui va s'y passer, ainsi que les liens, les indices et la trame scénaristique. Et tant que vous ne faites rien qui n'interfère avec cette trame, concrètement, vous risquez pas de...
Mais par contre, il faut noter, quoi.
Oui, parce que
si t'inventes les trucs et tout, parce que le problème d'un lieu clos, c'est qu'ils vont forcément repasser par des endroits plusieurs fois.
Oui. Ben, même dans Londres, les joueurs peuvent être amenés à repasser plusieurs fois dans les disques, soit dans les lieux qu'ils ont déjà visités ou autres. Mais en général, si les indices se suffisent à eux-mêmes pour indiquer la bonne direction. De ce que j'ai lu à Lettres Noires à Whitechapel, c'est très facile. Enfin, je veux dire, quand les joueurs ont les indices, je pense que ça va être que quelle que soit la direction qu'ils prendront, ils finiront par rencontrer la bonne personne et puis suivre le scénario.
Assurer le principe de Gumshoe pour ceux qui ont jamais joué, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que en réalité, si tu poses la question ou si tu es au bon endroit pour chercher la chose, tu vas forcément la trouver. Après, ouais, tu mettras plus ou moins de temps. Voilà, et si tu as la compétence, tu mettras plus ou moins de temps, mais tu vas la trouver. Donc après, voilà, c'est vrai que l'intérêt là, avec Londres, c'est que c'est tellement vaste que tu évites le gros piège de Gumshoe qui, pour moi, est si tu visites une pièce, voilà, tu décris, mais tu vas forcément rapidement tomber sur les indices. Et finalement, ça devient un peu automatique, alors que là, c'est tellement vaste que finalement, faut vraiment choisir le quartier, faut aller dans la boutique, faut vraiment cibler, quoi.
Bon, après, on va pas entamer un débat sur le Gumshoe, mais je pense que souvent, ce n'était pas si automatique que ça. C'est-à-dire que, en général, l'indice, ça peut être un petit objet, ça peut être une marque sur le tapis ou autre. Et
ouais, mais là, c'est... On rentre sur une difficulté, c'est un, il faut que le gardien décrive très bien,
ouais,
pour pas appuyer sur les endroits où il y a l'indice, et par contre pour avoir tout décrit. Là tu viens de parler d'une trace sur le tapis, donc est-ce que toi d'habitude quand tu décris tu cites qu'il y a un tapis sur le sol? Est-ce que si la première fois que tu le dis, les joueurs vont forcément mettre le focus dessus et ton indice ils vont le découvrir tout de suite, ou alors ils savent pas que le tapis c'est intéressant, ils passeront toujours à côté. Tu vois, pour y avoir joué un peu, c'est la difficulté, c'est un dosage, ça demande une certaine compétence au gardien, je trouve.
Ouais. Après. Là aussi, dans l'ouvrage de base de Gumshoe, il y a une myriade de conseils qui font qu'il parle de notion d'indice discret, il parle de... Donc, quand on bookine tout ça, on comprend un peu mieux comment ça fonctionne. Mais en gros, pour reprendre ton exemple, je vais dire, bon, bah, dans cette pièce, il y a une commode, il y a un tapis, il y a un lit, il y a une table de nuit. Et puis, les joueurs vont, il y en a un qui va dire, bah, moi, j'examine la commode, l'autre, il va dire, bah, moi, je fouille la table de nuit, le nain, il va dire, bah, je fous le coup de couteau dans le matelas. Puis évidemment, bah, quand ils vont rien trouver, ils vont dire, soit ils vont se dire, attends, on n'a pas vu le tapis, ou alors moi je vais dire, toi, ton regard est soudain, ton regard fixe sur quelque chose sur le tapis.
Ça doit pas être facile là de jouer Dark Keeper, parce que d'un côté t'as le côté narrativiste, où c'est complètement ouvert, mais d'un autre côté, moi je trouve que le système Gumshoe force un peu de l'anti-narrativisme, en ce sens que déjà le gardien doit tout qualifier. Enfin, tous les indices, ils doivent donner leurs difficultés, les différentes... Parce que, ok, il peut y avoir pas beaucoup d'indices, mais un scénar...
Je peux pas comprendre, est-ce que tu peux t'expliquer un peu?
Moi, ce que je veux dire, c'est que par exemple, voilà, il y a...
Oh putain, non, c'est pas vrai.
De quoi? qui se passe, c'est ton horloge qui a explosé. Ah, tu nous entends plus.
Ok.
Prince Noir, tu m'entends encore?
Oui, moi je t'entends.
Ah, attends, je crois qu'il nous entend plus, non?
Dark Keeper, tu es avec nous?
Ah, non. Il est parti. Ah, c'est super, on va pouvoir le descendre. Non. Non, mais ce que je veux dire... Bon, je vais continuer quand il sera là, parce que c'est con. Il va revenir.
Non, ça y est.
Be back.
Ah. Le revoilà. Donc, écoute.
T'as vu, mon argument était tellement de poids que ça t'a déconnecté.
Oui,
non, ce que je voulais dire, c'est que t'es obligé de qualifier les indices. Par exemple, une petite statuette qui se trouve dans le fond d'un tiroir, tu vas lui donner une difficulté.
Non. Bah, c'est-à-dire que ce soit le cheveu sur le tapis ou le couteau dans le mur, c'est pour les indices vraiment importants sont des indices discrets, donc les joueurs les trouveront forcément.
C'est moche donc, que tu fais vent, c'est moche. Parce que tu l'amènes petit à petit sur la critique de Gumshoe, c'est moche ce que tu fais.
Non, mais les autres indices, ça sert juste à comprendre un peu mieux. Donc techniquement, les joueurs pourraient se contenter. Un joueur très intelligent, enfin, un joueur pourrait se contenter de des indices discrets pour trouver ce qui se passe. Après, effectivement, un jeu de scénario d'enquête c'est jamais simple. Donc, c'est à ça que servent les autres indices.
Ouais. Enfin, moi, le système m'a pas convaincu, mais je comprends qu'il y en a qui s'est plus convaincu. Le fait qu'on découvre forcément, ça me.
Ben,
il y en a plein qui disent que le but du scénario de Cthulhu, c'est pas découvrir les indices, mais c'est plutôt de savoir ce qu'on en fait et comment on les met ensemble.
Voilà, c'est-à-dire que l'appel de Cthulhu, concrètement, c'est très gros trait, hein, c'est pour que vous compreniez, bien sûr, ne me sautez pas à la gorge. L'appel de Cthulhu, c'est la série télé où on va vous faire un focus sur le mec qui, ou la police scientifique, qui vont mettre leurs gants et trouver le cheveu au milieu du tapis. Et Cthulhu, Trails of Cthulhu, concrètement, c'est la série télé où on va faire un focus sur le visage du mec quand il fait « C'était donc ça !»
Voilà. Ouais, alors le problème, c'est que, vu comment tu nous décris avec la première série, moi je peux te faire 10 saisons. Par contre, toi, Colombo, tu fais que 3 saisons, quoi. Il faut voir que le problème aussi, c'est que il faut que l'auteur il soit quand même hachement bon, parce que il faut pas, enfin, ce que je veux dire, c'est que souvent dans Cthulhu, l'appel au Cthulhu, l'indice se suffit à lui-même, donc ça demande pas d'être un génie du mal ou un génie de l'écriture, un prix Pulitzer pour pouvoir l'écrire, alors que dans Trail of Cthulhu, justement, l'indice, de quelque façon qu'il soit caché, ils le découvriront.
Oui.
Mais par contre, c'est en les mettant en corrélation. Et ça, faut que ce soit subtil, mais faut que ce soit bien fait. Et moi, je sais que j'ai lu quelques scénarios de Trail of Cthulhu. C'est pas toujours bien fait, quoi. C'est
sûr, enfin, que ça doit dépendre des. Ça dépend aussi.
C'est pas facile, c'est quoi.
Ça doit dépendre, mais personnellement, je vais te donner un exemple tout con. Scénario de convention que j'ai fait l'année dernière. Vous êtes à la recherche d'un mec, vous arrivez dans une auberge où il est d'une ville où il est censé être passé. Concrètement, l'aubergiste vous dit bah non, j'ai jamais vu ce mec. Vous voyez le livre d'or avec la signature du mec dedans. C'est clair qu'il est passé, quoi.
D'accord.
Après,
enfin, pour moi, ça manque de subtilité, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que, c'est-à-dire que moi, si je les fais parler avec le type, et là, dans ces cas-là, s'ils me disent, on veut un indice, je vais pas les aiguiller forcément tout de suite vers le livre d'or, tu vois, Alors que oui, mais dans Gumshoe, quand ils sortent de la pièce, ils sont censés avoir balayé les indices s'ils les cherchent. Alors que tu vois, moi, ils peuvent sortir d'une pièce, par exemple, je sais pas, le Dému des Masques, ils peuvent sortir d'une pièce avec qu'une partie des indices. Alors après, les indices se suffisent à eux-mêmes, donc ils pourront les exploiter, mais il y aura des pistes qu'ils auront pas.
Bah, techniquement, si je reprends mon exemple, si ça n'avait pas été le livre d'or, ça aurait été une photo du mec accroché plus loin, ou ça aurait été un témoignage du vieux qui dormait devant la cheminée. Voilà.
Ouais. Après, ouais, mais tu vois, c'est ce que je trouve de finalement assez dirigiste, quoi, finalement, parce que Il faut leur donner la béquille, parce que leur, le but, c'est pas qu'ils se nourrissent, mais c'est plutôt qu'ils s'envolent, quoi. Donc la béquille, ils l'auront. Donc tiens, allez, tiens, mange lundi, tu vois. Enfin, moi, j'en ai joué, hein, je me suis éclaté à faire quelques parties, mais le système, j'ai toujours eu un peu de mal à le mettre en œuvre, parce que bah, quand ils rentrent dans une pièce, je savais qu'il fallait que s'ils me disaient « bon, bah, je regarde le mur du fond bah, », il fallait que je lui dise « bah voilà, derrière le tableau, eh ben, tu t'aperçois qu'il est un peu décalé, hop, 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 et voilà, il y a un truc derrière ».
Bah, et... que tu lui dises ça ou que tu lui dises bon bah tu fais ton test d'objet trouvé objet caché, tu l'as réussi, bon bah il y a ça. Dans les deux cas tu lui donnes la béquille.
Alors non, t'as jamais joué avec moi, parce que déjà moi s'il me dit je regarde le mur du fond, s'il me dit je fais un géant toc sur le mur du fond, je vais lui dire oui, mais encore.
Bien sûr, après
tu vois, c'est, je vais dire non, je n'autorise pas un géantoc par exemple sur une pièce, non, ou un géantoc sur un bureau à cylindre, je vais dire non. Ah qu'est-ce que tu cherches, est-ce que tu cherches quelque chose de sous un double fond, est-ce que tu cherches un mécanisme avec des clés, est-ce que tu cherches, mais je lui demandais tu vois de plus pousser la chose. Et finalement, ouais. Chose qu'ils n'ont pas forcément à faire, parce que si dans Trail of Cthulhu, je lui dis « Ok, je vais dépenser tant de points, et je mets mon max de points pour trouver cet indice, je vais être obligé de me le cracher. » C'est ça le...
Alors...
Et dire qu'on était parti sur la critique des mystères de Londres au départ.
Oui, alors c'est certes... Non, mais le départ peut être intéressant, on peut continuer. Mais il y a peut-être une mécompréhension du système, là, parce que... techniquement, la dépense de points, c'est pour avoir des infos supplémentaires. Donc, techniquement, si t'en as pas prévu, tu peux lui dire concrètement, écoute, dépense pas tes points maintenant, ça sert pas.
Bah c'est nul. Moi j'aime pas ça, moi. Mais au contraire, s'il claque ses points et s'il y avait rien à trouver, je vais lui dire, ah, t'as l'air d'un con. T'as claqué tes points, il y avait rien. Enfin, mais je suis d'accord avec toi que j'ai peut-être mal compris le système. Et bon, on va pas non plus passer la soirée là-dessus, mais le fait est qu'il n'y a pas que moi, c'est que le système est assez mal expliqué, je trouve. Dans le livre de base, je fais pas une partie pour comprendre comment ça marche, vu que c'est un concept assez nouveau, de réserve de points, que tu dépenses pas, et puis tout ça. Je me rappelle rien que pour l'appel de Cthulhu, au début, quand t'avais la valeur de santé mentale et le pourcentage de santé mentale, moi j'ai galéré ma race, quoi. À chaque fois, au début, je faisais faire les jets sous les points de santé mentale.
Je ne prône pas la simplicité du système Game Show non plus, mais il m'a fallu un peu de temps pour le comprendre aussi.
C'est ça qui est un peu dommage derrière, tu vois, c'est que le système est intéressant, sans quoi il aurait nécessité une description et une explication mieux faite.
Après, effectivement, bah honnêtement, à part te proposer une IRL pour te masteriser une partie...
Ouais, mais tu vois, la paléontologie, j'ai pas besoin de maîtriser une partie pour comprendre comment ça marche. C'est ça qui est un peu dommage.
Figure-toi que, personnellement, l'appel de Cthulhu, je n'ai jamais masterisé. J'ai lu qu'en joueur. Et quand on m'a prêté la V6 anniversaire en couleur, pour que je dise, bah tiens, je vais lire un petit peu le système, et ben j'étais paumé.
C'est vrai?
J'étais bien paumé. Et oui.
Oh. Et c'est parce que t'aimes pas les pourcentages?
Non, particulièrement. Mais
t'aimes pas la couleur, alors.
Mais je t'ai quand même bien paumé.
Ouais, peut-être pour les rajouts d'endurance et tous les conneries qui sont rajoutées, équilibre, tout ça, mais les règles de base de Cthulhu, elles sont pas compliquées, quand même. Bah, parce que je veux dire, par rapport à des compétences d'investigation, des compétences d'action, des points... À Cthulhu, tu jettes t'as les points de vie, les points de santé mentale, et tu jettes sous un dessin. Ben, après, d'accord, tu rajoutes le fait que si tu combines deux compétences, machin, tu fais des trucs un peu spéciaux, mais les règles fondamentales sont pas hyper, hyper dures. Non? Tu trouves?
Dans Game Show, elles sont très simples aussi, si tu veux, mais là encore, je pense que c'est un débat de sourds, au final.
Non, je suis pas d'accord avec toi. J'essaie de m'extraire de la pratique. Et la fois où j'ai lu les règles de l'appel de Cthulhu, même la V6, en retirant les règles optionnelles, et à la fin de ma lecture de Trail of Cthulhu, pour me dire, alors, les compétences de... Extrais-toi du fait que tu l'as déjà pratiqué et que tu connaisses. Et moi, je trouve que l'appréhension, la prise en main était quand même beaucoup plus délicate pour Trail of Cthulhu, parce que... tu vois, rien que le concept des compétences d'investigation et tout ça, ils appellent ça compétences et compétences, et elles ont pas du tout la même fonction. Rien que ça, moi j'étais perdu, quoi.
Alors, ouais, après, je pense qu'il y a aussi la patte Canadaï qui joue derrière. C'est-à-dire que quand on est habitué de l'ancien système, on est habitué aux belles formulations et tout. Canadaï, c'est quelqu'un qui va à l'essentiel. Par exemple, je l'ai sous les yeux, je peux dire, on nous dit comment rassembler des indices. Rassembler des indices est assez simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est 1. Vous rendre dans un endroit où vous pouvez récupérer des informations pertinentes. 2. Posséder la compétence adéquate pour découvrir l'indice. 3. Dire au gardien que vous l'utilisez. Point. C'est sûr que dit comme ça, ça peut laisser... Après, il y a un exemple, effectivement. Et c'est vrai que j'ai mis pas mal
c'est
de temps à
comprendre. C'est dommage qu'il n'y ait pas la webcam, tu me verrais miner le violon. Là.
Mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est... Rien que ça, tu vois, pour les règles, c'est assez étrange, parce que tu te dis... Donc, si j'ai pas la compétence, je trouverai jamais l'indice qui ne dépend pas de ma compétence. Tu vois, rien que alors, ce concept-là, moi j'ai du mal, parce que moi je suis le premier à avoir joué à RuneQuest où tout le monde fait de la magie, où si tu essaies de défoncer une porte, que tu sois magicien ou un gros bill, dans les deux cas tu peux essayer, je vais pas t'empêcher de le faire, après la réussite sera différente dans les deux cas. Alors, t'as faim à l'hôpital aussi, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est. Enfin, moi je trouve que le système, il manque quelque chose. Moi j'étais le premier, j'adorais la maquette, j'adorais l'idée et tout ça. Et le coût des réserves de points, je trouve ça vachement intéressant parce que ça t'oblige à gérer ton effort sur la partie et puis savoir à quel moment t'en mets le plus et tout ça.
Mais tu vois, c'est dur de se retenir, comme c'est dur.
Mais en plus c'est ça, parce qu'il suffit que tu sois un peu habitué aux scénars qui finissent par des apothéoses pour te dire, moi j'ai vu plein de joueurs qui à chaque fois gardaient leurs points pour la fin. J'avais envie de leur dire, non, arrêtez. Dépensez tout, faites pas les mini-maxeurs. Mais je suis d'accord que ça se trouve, je l'ai mal lu, ou alors je comprenais pas à ce moment-là, mais enfin, je sais pas si tu l'as lu, toi. Prince Noir, tu l'as lu ou tu connais Trail of Cthulhu?
Depuis tout à l'heure, je me retiens à intervenir parce que vous êtes un contre un là. Si j'interviens, le pop d'Arty.
Interviens, il n'y a pas de
soucis.
En toute honnêteté, est-ce que tu l'as trouvé facilement appréhendable le système?
Du tout, pas du tout. Non seulement ça, et moi je le trouve, je vais même plus loin que toi, avant je le trouve déjà buggé moi, déjà au départ. Voilà, parce qu'il se base sur un postulat, c'est-à-dire que le postulat de base c'est de dire, ouais non mais ça sert à rien de bloquer ou d'empêcher les joueurs d'avoir l'indice, ça fait pas avancer l'aventure, etc. Et là j'ai envie de rebondir sur un podcast qui a déjà été fait, où on a discuté avec Mr. Disparite, où on expliquait la façon intelligente de réagir face aux échecs. C'est-à-dire que ce postulat, il est basé sur une erreur déjà de départ, d'une notion binaire 0 ou 1, c'est-à-dire tu l'as ou tu l'as pas. Alors qu'il y a une manière intelligente de rebondir suite à un échec. Comme disait Desperate, c'est par exemple la porte, tu la défonces pas, mais tu la défonces pas parce que s'il faut, elle est à l'ancien trempé et que derrière, tu vois, il y a autre chose. Donc le fait de vouloir donner de base l'indice, ça oblige tout ce que tu viens d'expliquer, bon, de devoir gérer des indices de base, des indices supérieurs. Et moi aussi, j'ai lu dans le scénario, dans le commerce, des tas de scénarios où il y avait justement cette explication là d'indices de base. Quand tu donnes pas, tu dépenses pas tes points. Si tu dépenses un ou deux points, l'indice de plus. Et des fois, tu le lis, tu te dis mais c'est basique, c'est l'indice que tu vas gagner en plus. Tu gagnes pas grand chose, ça sert pas à grand chose, ça te fait pas avancer l'histoire. Ça plus le fait que quand tu répartis les points, il faut veiller. Là, je parle de NBA par exemple, que j'ai beaucoup adoré, hein, où tu dois répartir les points dans tout le monde. Donc ça veut dire que à 4 ou 5, il faut qu'on ait toutes les compétences. Donc là moi, quand tu fais un groupe de 4 ou 5, tu dois veiller à ce que tout le monde ait les compétences, l'ensemble des compétences académiques.
Attends, il est tout seul, vas-y, laisse-le répondre, vas-y Dark Keeper, excuse-nous.
De base, qu'est-ce que c'est un scénario d'enquête? Un scénario d'enquête, c'est une suite de découvertes. Après, dans le livre de Cthulhu Game Show, vous avez ce qu'on appelle des indices discrets. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est un indice discret? Un indice discret, c'est clairement quelque chose que tu remarques sans forcément le rechercher. Je veux dire, t'as pas besoin d'une compétence pour voir qu'il y a un ciseau planté dans le mur ou pour voir qu'il y a une grosse tache de sang par terre.
D'accord.
Jusque-là, on est d'accord.
Tout à fait.
Ensuite...
Oui, mais là, c'est revenir au fait que les jets de dés, il faut les utiliser intelligemment. Et ça, je dis rien.
Oui. Ensuite, tu peux prétendre. J'ai aucune critique vis-à-vis du système Chaosium, que le fait qu'on te dise oui, bon bah t'as raté ton jet, tu trouves pas l'indice, fin de l'histoire. Effectivement, on peut toujours trouver une pirouette scénaristique. Y a aucun problème. Mais au final, ta pirouette scénaristique, est-ce qu'elle compense pas, au final, ce qui serait un défaut du système? Après, pour revenir au... Pour revenir au fait que tous les joueurs doivent avoir toutes les compétences académiques, ce n'est pas vrai. C'est juste à toi de savoir dans ton scénario quelles compétences tu as besoin, et souvent elles sont pas nombreuses. Et t'as qu'à juste à dire, écoutez, dans votre groupe, il faut qu'il y en ait au moins un qui ait connaissance de la nature, qu'il y en ait au moins un qui ait ça, un qui ait ça, un qui ait ça. Ensuite, une fois que tes joueurs sont adaptés et que ils trouveront forcément les indices. Et là encore, si t'as prévu que avec une connaissance de la nature, l'investigateur trouve que cette rose, eh ben en fait, elle est pas naturelle parce que c'est un germe du mythe ou je ne sais quoi, et que la personne qui tombe face à la rose n'a pas connaissance de la nature, tu peux toujours faire une pirouette scénaristique, et en général, les indices, t'as plusieurs façons de les trouver. Personnellement, la rose, tu peux deviner que c'est pas une rose naturelle avec connaissance de la nature, avec chimie, avec d'autres compétences.
Ça faut que tu l'aies prévu dans le scénario.
Non, pas forcément. Ça, c'est, tu peux juste, tu peux. C'est pareil, c'est une pirouette de MJ, quoi. C'est, je veux dire, par non, exemple.
Si je veux dire, dans ces cas-là, c'est. Alors pourquoi, tu vois, pourquoi faire le briefing en début de partie en disant il faut que vous ayez ça, ça, ça.
C'est...
Tu vois, par exemple, moi par exemple, enfin, il y a des moments où, tiens, la fleur. Bon, ben voilà, personne n'a de compétence pour la fleur. Bon, ben, ils sont pas bloqués, les joueurs. Ils vont prendre la fleur, ils vont faire un croquis, puis ils vont aller voir un herboriste.
Et ben, dans Cthulhu, tu peux aussi faire ça parce qu'il y a des compétences relationnelles qui permettent de contacter des gens qui s'y connaissent aussi. Ouais. Par exemple, tu peux tout à fait dire, bon, ben, exemple. Exemple de base, tu peux me dire, on sait qu'il y a un monstre qui évolue dans les égouts, on aimerait lui tendre un piège, pour ça il nous faut le plan des égouts. Personne n'est agent de la DTE, personne ne connaît le plan des égouts. Très bien, s'il y a un joueur qui a des points en bureaucratie, il peut me dire, ah ben, avec bureaucratie, j'utilise bureaucratie pour contacter un agent de la DTE qui s'y connaîtrait, qui pourrait me fournir le plan des égouts.
D'accord, ouais.
Bon, après, c'est sûr que je suis d'accord avec vous, on va pas se le cacher, quand on a tourné pendant des années au système Chaosium et qu'on nous présente le système Gunshow, c'est normal que le changement est tel que ça peut provoquer un certain rebut.
Ce que je te dirais surtout, c'est que le problème, c'est que. Moi, j'aime bien les scénars, tu vois, par exemple, l'autre Rafiol et Kirdel, t'aurais du mal avec Trail of Cthulhu. Puis à un moment donné, vers l'action. Et tout le monde reconnaît, et ça, c'est assez objectif, hein, c'est pas que moi.
Oui,
mais les règles de combat et les règles d'action, c'est galère. Parce que, ils ont un super système pour eux. Ça se défend, c'est ce que tu dis, t'as des bons arguments pour l'enquête. Par contre, pour les scènes de combat ou alors pour les scènes de poursuite et tout ça,
bon.
pas facile. Hein.
Bombe. Répondre à Darky.
Ouais.
Alors déjà, moi, si j'attaque Gumshow, ça veut pas dire pour autant que je défends Chaosium. Hein, j'ai tout autant de critiques pour Chaosium. Et de
D'accord.
deux, pendant que tu défendais la Gumshow, moi j'ai repris donc le bouquin. Parce que, et donc je lis page 9. Hein, le réalisateur et les joueurs parcourent ensuite la liste de compétences d'investigation. Afin d'assurer que chacune d'elles ait été choisie par au moins un agent. Voilà, moi ce que j'aime bien,
Attends. Je dis par au moins un agent, on est d'accord. Alors que tu me disais que chaque joueur devait avoir toutes les compétences.
Non, c'est pas ça. Je te disais que tu dois te débrouiller pour que
toutes les compétences soient réparties. Moi je l'avais compris comme ça aussi.
Voilà.
Peut-être que t'as mal compris.
Ce qui me gêne moi déjà dans ce système-là, c'est que si tu vas faire ton groupe, par exemple, de 4 joueurs, tu vas donc te débrouiller pour que l'ensemble des compétences soient réparties sur les 4. Mais s'il manque un joueur, eh bien bingo, là t'es de nouveau emmerdé parce que là tu vas avoir du mal à faire rentrer, etc. Mais moi, c'est à cause de tout petit bug. Attention, je dis pas qu'il est pas bon parce que moi je l'adore, NBA, je l'adore ce bouquin. En plus, je trouve qu'il est bien plus. J'avais, comment il s'appelle l'autre jeu de 7ème cercle, Ésoterroriste, qui était pas mal aussi et qui utilisait le même système. Et là, je trouve que vraiment, ils l'ont donné. C'est ce qu'on discutait juste avant le podcast. On disait qu'il y a des compétences au niveau 8 là qui rendent vachement plus énergique, le mec qui peut devenir Yamakasi, l'autre qui fait cascadeur. Non, mais c'est vrai, moi ça me fait penser aux différents modes de la V6, quoi. Tu vois, le mode pulp et compagnie. Donc ça, je trouve ça très bon. Il y a de très bonnes idées dedans. Mais je suis désolé, de base, il y a des systèmes qui... Enfin, il y a une mécanique de création de personnages qui te bug un petit peu, qui t'empêche de te faire ce que tu veux, de faire rentrer n'importe qui, n'importe quand dans ton groupe de joueurs. Enfin, c'est pour moi, il y a des choses qui ne vont pas, qui ne collent pas.
Je comprends ton argument. Pour revenir à ce que disait Vonve, c'est curieux que tu le trouves trop complexe, le système de combat, parce qu'en général, les joueurs font la critique inverse. Ils disent « c'est trop simple ».
Ah non, non, j'ai pas dit qu'il est trop complexe, j'ai dit qu'il est nul. J'ai dit que, pour moi, Non mais, ce que je veux dire, c'est qu'il me permet pas de gérer un combat comme je veux. Je suis... Tu vois, par exemple, si... Enfin... Je me rappelle même plus comment il fonctionne d'ailleurs fondamentalement avec les rafales et tout ça.
C'est très simple. En gros, si tu utilises par exemple, si deux joueurs se battent, bon bah c'est bagarre versus bagarre. On fait des tests à difficulté 4, donc il faut que tu pour lancer un des 6 que tu fasses au moins 4. Et le premier qui se loupe a perdu, sachant que bah, le premier qui commence c'est celui qui a la réserve le plus faible, parce que c'est comme ça, s'il se loupe, bah t'as un gagnant. Et sachant que tu peux dépenser des points, et bon après. C'est clairement un système qui est conçu, c'est clairement un système qui marche si t'appuies de la narration. C'est-à-dire que s'il n'y a aucune narration, les deux joueurs vont être, bon, le joueur va faire, je lance, ah, j'ai fait 4. Le maître joueur il va lancer, faire, j'ai fait 4 aussi. À toi, j'ai fait 4. Ah, ben moi je me suis loupé, donc c'est toi qui remporte le combat. Dit comme ça, c'est à chier, on est d'accord.
Ah.
Par contre, ouais, mais si tu apportes un peu de narration, si tu dis bon bah le joueur fait je lance, bah j'ai fait 5, je mets une putain de droite dans la gueule, et que le maître joueur il lance dans son côté, il obtient 5 ou 6 ou 4, ou en tout cas que ça marche, il fait bah je t'en mets une et tout, et puis au moment où le maître joueur se loupe, il fait ah ben t'as tapé trop fort.
Ouais, mais enfin t'as déjà joué à Feng Shui?
Non,
bah tu devrais.
Parce que ouais, c'est clair.
Feng Shui, ce que tu viens de me décrire, c'est exactement ça. Feng Shui, tu dis ok, je me balance du haut de la chaise et puis je me jette en déséquilibre pour lui tomber avec le coup de la troisième corde avec mon coude dans la tête. Je vais dire ok, t'as plus 2 à ton jet. Vu ce que tu m'as décrit, t'as plus 2. Parce que je trouve ça trop classe. Et puis c'est sûr que ça va marcher, t'as plus 2. Bon, tu vois, ce qui est dommage, c'est que le travail qu'ils ont fait, que ça se réussisse ou non, ou que ça te plaise ou non, au système d'enquête, je trouve que le système de combat faisait bâcler alors que ça aurait pu être complexe pour complexe avec un système pour les actions et un système pour l'enquête. Pourquoi pas, pourquoi ne pas avoir fait un système bien et adapté pour le combat?
Est-ce que tu l'as lu, NBA, Bombe?
Ça me dit quelque chose, c'est quoi?
Nightblade Agents.
Ah non, j'ai pas lu. Il paraît que c'est vachement bien.
Moi, je trouve qu'il apporte quelque chose, hein, justement, au niveau du combat.
Il paraît que c'est vachement bien.
Ce qu'il faut savoir, c'est que Trails of Cthulhu a été réédité, il y a une V2, et dans la V2, il y a des règles de combat optionnelles qui permettent effectivement de cadrer un petit peu mieux la règle que je vous ai expliquée. Et dans NBA, le système de combat est refondu, et t'as quelque chose qui, je pense, correspondrait beaucoup plus à tes attentes.
Parce que tu vois, c'est... Il faut pas prétexte que le jeu est bien et tout ça, et que c'est... Il faut pas lui ajouter des qualités qu'il n'a pas. Parce que dans ce que tu m'as décrit, je fais un G, moi j'ai commencé avec le noir, c'était ça. Le noir c'était attaque parade, point d'impact, coup de maître, t'es mort, paf. Et finalement, tu vois, c'est ça. Alors que voilà, ouais, exactement à notre époque, on attend qu'un jeu... Si je me défonce en narration, il doit le prendre en compte. Si un bon jeu pour moi, si je me suis fait chier à décrire ma scène, que j'arrive en glissant sur le dos, machin, que je passe entre les...
Ah, mais c'est ça. Comme quoi, tu vois, finalement.
Mais je suis tout à fait d'accord. Enfin, pour moi, le mec qui est apathique autour d'une table, je suis désolé pour lui. Je vais l'aider.
Non, c'est pas vrai.
Le mec qui a... On a reperdu Dark Keeper. Il va revenir, mais enfin le mec qui est apathique, eh ben il va payer le prix. On joue à un jeu où on parle. On joue à un jeu où on doit s'investir.
Et rien que le nom déjà, jeu de rôle. On est là pour
voilà.
Un rôle.
Exactement. Si tu joues pas ton rôle, bah t'as des malus.
D'accord.
Pour le pauvre Dark Keeper qu'on a chargé et qui a défendu. Car pour ta défense, tu as très excessivement bien défendu par le sommaire et par le menu, l'ouvrage, qui franchement m'a donné très envie, rien que pour le côté Londres et le côté notamment ce que tu as dit, la magie des villes. Je trouve ça très très, très très intéressant et pas utilisé à toutes les sauces, mais c'est quelque chose qui parle et qui peut. Et puis surtout le fait que les cartes soient exploitables et soient composites et qu'on puisse les. Ça me plaît carrément, surtout que je suis toujours en train de regarder la série Reaper Street. Donc franchement, ça. Enfin, pour moi, à ce niveau-là, c'est vachement intéressant. Et puis c'est vrai que bon voilà, il y a quand même du bon matos dans Trail of Cthulhu en dehors du système. Et de toute façon, comme tu l'as dit, je crois au début, c'est adaptable. C'est pas voilà, c'est pas teinté. C'est...
Effectivement, concrètement, le système de règles ne se ressent dans l'ouvrage que dans la création du chasseur de livres et de la librairie, parce que on nous donne des petits points de librairie qu'on peut utiliser typiquement. Je viens de trouver une plante, je sais pas ce que c'est. Dans notre librairie, de mémoire, on a des plantes. En gros.
Mais c'est ça qui est assez marrant, ce principe-là est assez marrant, et le principe de lier une équipe autour d'une boutique, je trouve ça carrément sympa. Je savais pas du tout que c'était axé comme ça. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est. Il va falloir qu'on passe à la dernière critique, mais moi si je devais résumer, je dirais que si je veux monter un scénar sur. Si je voulais. Parce que là, j'écris très mal des scénars, mais si je savais écrire des scénars. Et si je voulais monter un scénar sur Londres, je dirais que c'est 4,5 sur 5, parce que je pense que c'est une super base. Pas trop exhaustive, comme peuvent l'être parfois les suppléments sans détour, où tu te perds dans le détail, mais assez pour finalement te donner plein d'idées. Par contre, de base, je mettrais 3,5-4, parce que si tu veux pas jouer dans Londres. Enfin, non, pas ça, c'est pas ce que je veux dire. Si tu veux pas jouer en Londres, c'est complètement con, dans ces cas-là, tu l'achètes pas. Mais ce que je veux dire, c'est que. Il m'attire quand même à 4, tu vois, rien que pour l'idée, le fait d'avoir un contexte, et puis d'avoir les idées de vous monter une librairie, d'avoir un petit peu des techniques de vente, d'achat, le fait que finalement, ça. Au lieu d'être toujours à Londres, ils peuvent tout à fait faire les globetrotters autour du globe à chercher des bouquins, et puis à chercher des trucs, leur mettre des gros bras au cul parce qu'ils sont endettés, des choses comme ça. Donc
technique, petit point pour la Ferrare Hermitage. Dans la Ferrare Hermitage, c'est inscrit, c'est géré, on peut utiliser des personnages chasseurs de livres dans la Ferrare Hermitage.
Ah voilà.
Bien joué. Et le petit lien est fait. Je trouve c'est pas grand chose, mais
non, mais c'est bien. C'est plus. Bien. De ton côté, toi, Prince Noir, t'en penses quoi?
Pour le noter, alors déjà, je lui mets 1 sur 5 pour la défense de Gumshoe. Je condamne à perpète. Là, il a tous les arguments des picoteurs habituels, d'Emmanuel Gumshoe. Non, mais sinon, je lui mets 4 sur 5 parce que vraiment, il m'a donné envie de. Il a sorti les arguments. Tu vois, moi, quand je l'écoutais parler, je pensais immédiatement à Nightmare Agency, le fait de gérer une agence de détectives privés. Donc, ouais. Ça m'a fait penser à ça. Et aussi à des séries télé ou des films, je sais plus comment ça s'appelle, Le Bazar ou Warehouse 13, enfin, tu sais, où tu dois retrouver des objets magiques, etc. Et là, je me suis imaginé, en l'écoutant parler, je me suis imaginé de suite des idées de scénario. Et je dis, ça, c'est porteur, tu vois, c'est plein de bonnes idées, c'est sympa, le côté chasseur de livres, 9e porte, un peu plus énergique que le film, évidemment. Donc là, pour ça, je trouve que ça peut être un super manuel, et puis il y a l'air d'avoir plein de conseils, et ça, c'est intelligent, quoi.
Ouais. Donc, en conclusion, quand vous lisez une gamme de JDR, ne vous arrêtez pas au système de jeu, regardez quand même comment sont faits les suppléments.
Eh bien, alors ça, tu vois, c'est une très très bonne remarque pour finir, pour conclure, et j'aurais rien à rajouter, c'est très très juste. Faut pas être con et se dire, parce que j'aime pas le jeu, je vais pas regarder, parce qu'il y a des suppléments qui sont tout à fait raison, exploitables. Ils peuvent même rien que être bien écrits, avoir des super cartes, avoir des belles illustrations, une pure maquette, ou avoir que des idées, mais tout à fait.
Pour les cartes, j'ai noté un truc là, c'est apparemment tu as fait une bonne remarque sur le côté qu'il y avait quand tu as demandé s'il n'y avait pas deux cartes, une pour le MJ, une pour le joueur. Ça, je trouve dommage que ça manque, ça, c'est dommage.
Pour les avec pas mal de. J'irais un peu avec pas mal de points, tu sais, qui peuvent être pris, les deux choses qui sont citées dans le bouquin, quoi.
Alors, j'en profite pour faire une petite remarque vis-à-vis du livre Occulte de Londres dont tu parlais. Mmh. Le livre Occulte de Londres est conçu pour les mystères de Londres, parce que tous les lieux où on les qui sont présentés dans le livre Occulte de Londres ont la petite coordonnée qui permet de le retrouver sur le
guide. Ah, ça c'est pas mal ça.
Donc, avec ton guide Occulte de Londres, t'as plein de petits endroits qui te sont donnés, tu sais où ils sont sur la carte et tu peux les employer.
Ça c'est intelligent,
très,
ça.
Très sympa, ouais, très intelligent.
De relier les deux suppléments et tout, de faire des liens dans la gamme, c'est vachement intelligent, ça, c'est très sympa.
Bon, bah dis donc, tu t'en es bien tiré quand même, parce qu'on n'a pas été tendre.
Ah, ça c'est clair, hein. Moi j'ai dit la meilleure Desperate.
Ouais, ouais. Effectivement, bien joué. On sentait qu'il y avait quelques crispations vis-à-vis du système Gumshoe. Je dis toujours, il faut mieux crever l'abcès.
Ah, mais t'as raison. Bon, allez, enfin, je reprenne le flambeau derrière ça peut être facile, mais c'est le faux joint de ma sauce. Donc, suite à cette super critique de Dark Keeper, je vais donc attaquer de mon côté une merde sans nom, une bouse, une daube. Un truc pur 80s, quoi, qui transpire le. Il transpire la chemise en satin et qui sent le Patrick Hernandez Born to be Alive, quoi. Le fascicule tout moche. Le truc. Enfin, le truc où tout le monde dit « Ah putain, non, tu l'as pas joué. » Et on rigole sous le cap en disant « Le pauvre. » Le truc qui a dû faire arrêter beaucoup de joueurs de l'Appel à Cthulhu après l'avoir lu et joué. Eh bien, je vais vous le défendre, car aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais tenter l'impossible. Et je vais vous défendre les ombres de Yoxototh. Oui, vous avez bien entendu. Ok, je me suis pas attaqué au mystère de Kadath, hein, qui est quand même une merde sans nom, mais là, c'est abyssal. Là, je m'attaque aux ombres de Yoxototh, car pour moi, les ombres de Yoxototh, pour l'avoir joué deux fois, je crois, total, a un gros potentiel. Souvent, c'est ce qu'on dit d'un élève qui est complètement nul, mais qu'on veut pas faire mal aux parents. On dit votre fils est complètement con, mais il a un gros potentiel. Il suffira qu'il se révèle. Non, les ombres de Yoxototh ont été. Les ombres de Yoxototh est une. En retirant quelques scénars, une suite de très très bons scénarios. Je dirais même pour certains d'excellents scénarios.
Ah, excuse-moi de te couper, je voulais juste te poser une question parce que je crois avoir lu une version, ça va te faire rire, mais une version justement Game Show. Est-ce que c'est bien le morceau où il y a un passage qui fait penser au Dracula de Bram Stoker? Une espèce de vampire, de noble dans son château dans les pays de l'Est, hein.
Oui, je crois. Attends, je sais même plus, tiens, tu me poses une colle. Attends,
je n'ai pas connaissance de cela.
Je suis pas sûr. Non, je crois pas.
Ok, autant pour moi.
Non, dans les ombres, non. En réalité, dans les ombres, il y a 7 scénarios. Donc, attention, spoiler. Donc, les scénarios, c'est l'ordre hermétique du crépuscule d'argent. Observer le futur. Ah, je suis sur la version V6. Les sorciers de Kanich, le canyon du diable, le ver qui marche, les guetteurs de l'île de Pâques et la remontée de Rillier. Le problème de cette campagne, que comme vous allez pouvoir le voir, on va tout de suite attaquer les scénarios les uns après les autres. Car le gros manque de cette campagne, c'est le lion. En réalité, entre deux scénarios, les joueurs repartent à leurs occupations et tout à coup, un mec qui vient d'hériter d'une maison les contacte. Tout à coup, un mec veut qu'ils enquêtent sur un truc. Bon, moi je l'ai joué à l'époque où il est sorti, donc c'était les années 80, on était moins demandeurs, hein, de trucs complexes, genre d'indices compliqués et tout ça, ou de scénarios un peu construits, donc je m'en suis sorti. Mais c'est vrai qu'à posteriori, c'est ce qui manque à cette campagne, c'est que les scénarios s'enchaînent un peu bizarrement.
Parce que c'est important.
Et voilà, on sait pas trop pourquoi. Il y a des idées, hein. Il y a le grand méchant, Carl Stanford, qui peut tout à fait faire office de lion. Après, il y a d'autres idées, genre, je sais pas, vous mettez 5 PJ au début, et puis il y en a un qui se fait capturer, et puis pendant les scénarios, ils vont essayer de le retrouver. Bon, ça peut... Il envoie une photo de l'endroit où il est, comme ça, et ça leur fait un indice, mais bon, c'est tout pourri. En réalité, il y a du travail là-dessus. C'est le mauvais côté, que si on exclut observer le futur et le ver qui marche, il y a des excellents scénars. Premier en date et premier en chronologie, l'ordre hermétique du crépuscule d'argent. Ah oui, alors pour vous faire la trame quand même de la campagne, des vilains méchants, blabla, un grand ancien, blabla, destruction du monde, blabla. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc comme vous vous en doutez, ça s'appelle les ombres de... Voilà. Donc vous vous doutez que l'ancien qu'on essaie de faire monter à la fin, c'est... Voilà, blabla, blabla. Donc c'est tout pourri. De fait est que, comme pour les masques de Narathotep, si je devais la refaire jouer, je nommerais pas la campagne au début. Pas que les gens se doutent. Donc le premier scénario, c'est l'ordre hermétique du crépuscule d'argent, je crois que ça se passe à Boston. Et là, c'est un très très bon scénar, car pour une fois, au lieu de scruter une espèce de secte, vos joueurs vont être amenés à infiltrer un ordre hermétique qui s'est créé en ville, un truc un peu chicos, un peu ésotérique. Ce qui est assez sympa, c'est que, chose très rare, c'est de l'infiltration. C'est-à-dire qu'ils vont être dans les locaux des méchants. On sait pas trop qui sont les méchants au début, mais voilà. C'est de plein pied, ils vont pouvoir se balader dans la loge, pouf pouf. Bon, il y a des endroits marqués privés ou alors staff only, hein, mais forcément ils vont essayer d'enquêter là-bas. Mais donc voilà. Ça c'est le côté très sympa du scénar, très urbain, avec finalement une confrontation qui est très intéressante, car on est tout de suite confronté aux méchants, et à moins qu'on soit un peu neuneux et qu'on n'ait pas les deux hémisphères qui soient connectés, on se doute que ce mec-là il est pas clair, mais ce qui est étonnant c'est qu'on y est confronté dès le début, et il vient vous parler. Oh, ça me fait plaisir que vous ayez rejoint notre ordre. Vous savez, on est un peu nouveau dans la ville et que des sommités comme vous viennent contribuer. Et donc on est là, on met une petite toche de couleur selon notre niveau dans l'ordre et tout, et on vient en réunion. Donc il y a un côté hyper déstabilisant, je trouve, parce que les joueurs sont de plein pied dans la secte. Genre, c'est pas je vais essayer de rentrer ou machin, je vais essayer de regarder ce qui se passe, et non, tiens, rentre dedans Maurice. Alors, il va peut-être falloir aider des joueurs qui sont un peu trop réticents et qui ont un peu trop joué. Moi, comme c'était le début de l'appel au Toulouse, c'était assez facile parce que les gens n'étaient pas trop habitués, et tout, ça avait très très bien marché. Donc forcément, ce n'est pas juste un ordre hermétique d'amateurs de calva et de cigares cubains, hein, forcément. Il y a plusieurs grades, et des grades qui sont plus hauts, des grades qui sont un peu au top, peuvent amener à des choses un peu particulières. On ne fait pas que récolter de l'argent pour les petits lépreux ou des choses comme ça. Et donc, il y a deux gros méchants, et forcément, le scénar, c'est le but de ce scénar-là, ça va être un peu de démanteler, de découvrir ce qui se trame dans cet ordre, et donc de mettre à jour le gros méchant qui peut être tout à fait le fil conducteur de cette campagne, qui vous mène vers le deuxième scénario, qui est assez, assez pourri, il faut l'avouer. D'ailleurs, il a fait partie de ceux que je trouve un peu difficiles, c'est... En fait, le principe, c'est une nouvelle secte. Voilà, dans un autre endroit, soit c'est à New York. Et leur truc, c'est qu'ils se baladent dans le futur. Et alors là, c'est le problème, c'est qu'ils ramènent des trucs du futur. Donc, vous allez vous retrouver dans un scénario où les objets magiques, ce sont des poêles, des friteuses, des micro-ondes, des télévisions, des choses comme ça. Donc peut-être que vous êtes fan de Doctor Who, je sais pas, ou un truc un peu bizarre, mais c'est que ça a jamais pris. Surtout que c'est un peu basé sur la même chose que l'ordre hermétique, c'est-à-dire qu'on va essayer d'infiltrer un ordre, mais là voilà, l'ordre fait venir des trucs du futur. C'est un peu tout chelou, et on se retrouve avec des armes du futur et tout, ça devient un peu gros pile, enfin bon, pas terrible. Par contre, ça se poursuit sur les sorciers de Kanich. Je sais, vous voyez, pour vous dire, je sais même plus trop pourquoi on va c'est en Écosse, je crois. Et ce scénario-là est un classique cotidien, avec des générés débiles au fin fond de la campagne qui mangent leurs excréments et de temps en temps, pour le dimanche, mangent des bouts d'humains, je crois. Donc pas forcément génial. Je crois qu'on y croise quand même un deuxième méchant, une femme, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui est pas mal, qui est assez méchante et qui a aussi tendance à se barrer à la fin du scénar. Ça aussi, hein, je vous le cache pas, c'est très années 80, le coup du méchant, genre je reviendrai. L'intérêt, c'est de le faire de façon intelligente. En 2014, on sait comment faire disparaître un méchant. On attaque le quatrième scénar qui s'appelle le canon du diable, où là, c'est J'adore ce scénario-là. Franchement, c'est... Vous êtes sur le tournage d'un film qui se passe, je crois, au Nouveau-Mexique. Alors, je ne vous raconte pas encore la même chose, comment vous arrivez là. Je sais plus si vous êtes conseiller technique ou un truc comme ça. Mais alors là, c'est un super scénar, car vous êtes sur un lieu de tournage avec des acteurs super chiants, plein de PNJ qui se prennent la tête, et tous les vedettes, le mec qui veut pas travailler parce qu'il fait chaud et tout. Et sur ce fond-là, il y a parmi les meilleurs monstres que j'ai vu à l'appel au Toulou, qui s'appelle le chasseur spectral. Et ça vous fait une scène, mais j'en ai encore des frissons, rien d'en parler, absolument démente, des titanesques, je sais pas d'où elles sont, je m'en fous, c'est que on ne peut les voir qu'à travers des verres spéciaux. Et le fait est que le des caméras sur le tournage va réussir pendant le scénar à faire donc ces fameux verres, sinon on les voit pas, ils sont complètement invisibles. Donc il tire un mec en deux et vous voyez que le mec se fait découper en deux mais vous voyez rien d'autre. Donc ils sont imbutables, sauf si vous avez ce verre là. Et alors bien sûr le côté génial, quand les jouets ça fonctionne de folie, c'est que vous filez genre un verre à deux investigateurs, si vous avez une équipe de quatre. Mais imaginez le truc. Vous avez quatre investigateurs hystériques dans un décor de film avec des trucs, des faux décors, des faux rochers, une fausse hacienda et tout ça. Et là, vous avez deux mecs qui, si vous faites les choses un peu bien, ne peuvent pas le tenir que d'une main, mais sont obligés de le tenir avec les deux mains, sinon c'est un peu risqué. Donc, que deux personnes qui voient les chasseurs attaquer, ils se déplacent très très vite, pas à la vitesse de la lumière, mais très très vite, pendant que les autres tiennent les armes. Imaginez la scène de fin du scénar, mais qui a explosé de 1 de rire et 2 de trouille pour les investigateurs. Parce que le mec, il y a le mec qui a la lumière, qui peut voir le monstre donc à travers le prisme, qui dit derrière toi. Donc le mec se retourne, tire dans le vide, parce que forcément il le voit pas. Donc les fumbles, les mecs qui se shootent les uns les autres, les hurlements hystériques. Ça donne une pure scène, en plus vous mettez là-dessus les acteurs avec la nana qui est tombée amoureuse du metteur en scène, machin, qui fait une crise de nerfs, machin. Enfin, franchement, ce scénario-là est assez génial, assez dangereux, parce que comme les monstres sont invisibles, je ne vous cache pas que c'est pas coton. Mais, enfin, la première fois que je l'avais fait jouer, en plus j'étais encore méchant à cette époque-là, j'avais donné juste une lunette dans les deux, 4 ou 5 joueurs. Donc il y avait juste une seule personne qui pouvait les voir. Et forcément, je l'avais donné au mec, il est le plus hystérique, et le mec qui avait moins d'extérité, donc il avait fini, je crois, par casser le truc, et enfin, voilà, c'était carrément parti en cacahuète. Mais l'idée de ce scénario-là, vous voyez, hors campagne, hein, c'est le problème de cette campagne, mais hors campagne, ce scénario-là est excellent. Donc, la chaleur, tout ça, enfin, vous pouvez vous faire une pure ambiance. Ensuite, on attaque le verre qui marche. Alors ça, c'est un peu complètement con comme scénar, on sait pas trop d'où ça sort. Enfin, là aussi, ils vont faire une croisière, mais alors, c'est pas du tout comme Yotrafio et Liqueur d'Algue. À la limite, vous pourriez caser Yotrafio et Liqueur d'Algue, ça serait un peu difficile, mais vous pourriez le mettre là. Là, ils vont sur un bateau, ils se font attaquer par des doles géantes dans la flotte. C'est pas trop pourquoi, mais voilà, c'est pouf pouf, c'est censé être un interlude pour qu'ils se reposent, le genre des vacances. C'est un peu complètement con. Et on termine par les deux excellents scénars, très très dangereux. Les guetteurs de l'île de Pâques et la remontée de Rillier. Donc comme vous vous doutez, le dernier scénar, ça va être un peu touchy. Et les guetteurs de l'île de Pâques est très très sympa. C'est un scénario très aventure, qui demande pas mal de subtilité parce qu'on est quand même assez proche du Pacifique, hein, faut pas se le cacher. Donc assez proche de là où Cthulhu fait ronflette. Et que à l'époque du scénar, il a plus trop d'exomile, donc il va pas tarder à se réveiller. Il est plutôt en mode Red Bull. Donc les guetteurs de l'île de Pâques, je ne sais plus sur quoi ils enquêtent précisément. Je vais vérifier. Vous l'avez pas joué cette campagne-là, aucun de vous deux?
Non.
Non, je ne pense pas.
Un mal imaginable, l'accomplissement des efforts du crépuscule d'Arve. Ouais, c'est ça. Il y a pas mal de monstres. Il y a tout ce qui est... Il y a une bonne connotation comme ils mettent dans le scénar, dans la visite, l'interaction avec les personnes du cru. Et surtout, le point culminant de cette campagne, c'est le septième scénar, la remontée de Rillier, où alors là, ce que je veux dire, c'est que des fois, faut se laisser aller à ses petits plaisirs, quoi. Toujours tout maître de la paix de Toulouse doit avoir au moins sorti une fois que Toulouse, hein, avec une attaque, une montagne qui se déplace, hein, le truc impossible. Le truc où les joueurs se disent, oh, j'ai je veux mourir, eh ben, là, ça vous permet de faire remonter Rélier. Oui, non, c'est pas un euphémisme. C'est Rélier qui remonte. Alors, je vous conseille de pas le jouer comme moi, je l'avais joué dans les années 80, parce que c'est clairement mis dans le scénario. La personne qui a mon pouvoir va mourir sans rien faire. Pouf, pouf. Parce que comme l'architecture est totalement changeante à n'importe quel instant, il peut y avoir un bâtiment là où il n'y en avait pas juste avant, et inversement. Et donc le mec qui a le moins au pouvoir, je me rappelle, bon, je pense pas qu'il écoute les podcasts, parce que ça fait un moment qu'on il fait plus de jeu de rôle, mais je pense qu'il se souvient encore de son personnage que j'avais fait disparaître dans un morceau de mur, où il restait plus qu'une main ensanglantée qui est tombée sur le reste du bras et du corps. Ça c'est complètement con, mais si vous enlevez ce côté, ces deux ou trois petits trucs on-off des années 80, franchement, se balader dans Rélier, relisez l'appel de Cthulhu, la nouvelle là, je crois que c'est celle-là, hein. Ouais, c'est ça. Alors, ok, va falloir faire du Michael Bay, hein. Va falloir sortir les effets spéciaux, va falloir que ça crache, parce qu'il va falloir quand même décrire que des trucs qui sortent du spectre, des couleurs qui sortent du spectre, de la géométrie non euclidienne, donc on va galérer, hein, d'accord ? Va falloir rester très vague, faut rien décrire, mais décrire bizarrement, enfin, franchement, rien que pour le premier scénario, le canon du diable, bon, les sorties de canoniche moins, mais, et les deux derniers scénars, vous arrivez à faire un lien dans cette campagne, je me demande s'il n'y a pas des forums avec des gens intelligents, genre Cassius Snow, hein, bien sûr, où il y a les grands penseurs du monde rôliste, ou alors sur Radio Rôliste, ou alors sur Antonio B, ou des trucs comme ça, je suis sûr qu'il y en a. Il y en a qui sont intelligents quand même, mais je suis sûr qu'il y en a qui ont trouvé des lions pour faire les ombres. Vous trouvez un lion, ça peut faire une super super campagne. Parce que le premier scénar, c'est purement urbain avec une secte infiltrée. Le diable, c'est complètement novateur, tournage de films, machin et tout, avec des créatures carrément monstrueuses. C'est Ganich, c'est un classique. Et la fin, c'est quand même la remontée de Rélier. Donc très honnêtement, il y a des super scénars. Donc pour, j'ai un peu regardé, mais pour la version V6, j'ai pas l'impression qu'ils aient créé un lien entre les scénars. Je relirai un petit peu, mais j'ai pas l'impression. Donc voilà. Si moi je devais me noter, je dirais que sans lien, je mettrais 2, parce que c'est bizarre pour une campagne. Par contre, avec un bon lien, franchement, c'est une campagne qui vaut au minimum 4, parce que c'est. Enfin, vous avez de quoi faire vraiment des super scénars. Alors, oui, donc elle est disponible en V6, ça je l'ai dit. Elle fait combien de pages? Elle fait 168 pages. Donc, avec les illustrations, 200 détours et tout ça, donc voilà. Une bonne grosse campagne. Les illustrations sont assez étranges. C'est. Je sais plus comment il s'appelle, mais je suis pas fan. C'est assez bizarre, on va dire naïf, je sais pas trop. Autant il fait bien le tronche des gens, autant je trouve qu'il y a les grands formats. D'ailleurs, il a fait que ce supplément-là, autant les demi-pages ou les pages entières sont, je trouve, vraiment pas terribles. Donc voilà, je dirais qu'il y a, vous avez de la bonne glaise. Après, on vous fournit pas le tour pour faire tourner la glaise et les monter le vase. Donc, vous avez juste la glaise. Mmh. Vous restez comme ça, ça va faire une grosse tas de merde. Enfin, non, je veux dire, ça va pas faire comme dans Ghost, hein, ça va pas faire un beau vase. Et vous n'allez pas prendre votre pied comme quand il se tape machine demi-mour. Donc, non, il faut vraiment le bosser, mais il y a un gros potentiel. Voilà ce que je dirais sur les hommes de Oxotot. Donc même chose, comme tu disais, Dark Keeper. Si vous le faites offrir, vous pouvez faire quelque chose de sympa. C'est pas forcément à acheter, à moins que vous ayez une pure idée. Mais voilà. Avez-vous des questions, des remarques ou autres, messieurs? Alors, c'est facile, hein, parce que je me suis poignardé moi-même.
Oui, bien sûr, mais bon, quelques remarques, autant que, même si les gens n'achètent pas la critique, autant que ça qu'on puisse donner nos éventuels conseils là-dessus. Typiquement, faire venir des objets du futur qui en fait sont des objets de notre époque à nous en tant que joueurs, c'est un piège à con, faut éviter. Hein. Voilà. Concrètement, ça fait rien d'autre que de ruiner l'ambiance de votre scénar, et concrètement, ça fait rire les joueurs, quoi.
Exactement.
Parce que je reprends un scénario que j'avais fait jouer, qui était l'horreur de Kingsbury. Dans l'horreur de Kingsbury, il y a des déformations temporelles, et il y a plusieurs exemples qui sont donnés. Le journal fantôme du passé, donc c'est un journal avec, qui est paru après le présent, ça c'était génial. Le ciel futuriste avec une sorte d'aéroplane sans hélice, on a bien compris que c'était un 747. Ça, ça marche pas du tout.
C'est pas terrible.
C'est pas terrible du tout.
C'est assez après... délicat et puis on tombe très vite. Enfin, moi je me rappelle que mes joueurs ils se marraient parce que c'était l'époque où il y avait Retour vers le futur quoi. Et donc ils étaient morts de rire à chaque fois, ils m'appelaient Marty McFly quoi.
Ok, en plus.
Après, elle s'appelle comment la campagne ?
Les ombres de Yuxotot, oui, je sais.
De Yuxotot. Et ils nous ont fait monter Rylet. Enfin, il y a un gros problème, je pense.
Bah oui.
Je
pense qu'ils sont... Enfin, je sais pas trop comment ils ont fait cette campagne. Je pense que... Je pense qu'ils ont écrit des scénarios chacun de leur côté, parce que ce sont des auteurs à chaque fois différents.
Ah oui, ok.
Et je pense qu'ils ont mis tout dans un même sac, et puis ils sortaient des masques de Nathotep, puis ils se sont dit, bon, les masques de Nathotep, ok, on va appeler ça les... Et c'est vrai que c'est assez étrange, je suis d'accord.
Ouais, là encore, ça montre encore l'importance du nom pour un scénario ou une campagne. Bon, après, ça peut avoir son effet surprise, vous vous attendiez à Yuxotot, et ben non, c'est...
C'était exactement ça. Mes joueurs, à la fin, ils ont fait, mais au fait, mais pourquoi ça s'appelait comme ça? Eh bien, je ne sais pas.
Mais bon, encore, si tu m'avais dit les ombres d'Octou, et en fait, c'est Nyarlathotep, ça peut se comprendre. Tu vois. Bon,
non, alors, je sais pas, t'es terreur dans le Pacifique.
Ou un truc comme ça. Mais bon, voilà, là, clairement... Si c'était un recueil de scénarios différents, fallait pas donner un nom qui essayait d'englober tout. Moi j'aurais dit, pérégrination du mythe ou une sorte de un truc comme ça. Mais
pas... Ah voilà, le mythe autour du monde. Enfin un truc.
Un truc comme ça, un truc assez générique quoi. Qui
que,
englobe tout.
Clairement, c'est une odeur de sous masque. Tu vois, c'est une odeur de masque un peu c'est série B quoi. Genre ils ont vu que les masques ça avait bien marché. Je sais plus dans l'ordre. Je crois que c'est les masques d'abord et après les ombres. C'est l'inverse, c'est con, mais voilà, ça fait un peu sous masque. C'est-à-dire que on a des scénars, on a des bonnes idées. C'est vraiment des bonnes idées, mais ça tient pas. De ton côté, Prince Mark, qu'en penses-tu? Des questions, des remarques?
Sur les monstres, là, ça m'intrigue un peu. Là, il n'y a pas un peu beaucoup de monstres là.
Ah si, c'est hyper dangereux. Autant le premier scénar ça va, autant à partir du moment où t'as le verre qui marche avec les dolls et tout, enfin il y a quand même des dolls qui attaquent un bateau quoi, je veux dire pour s'en sortir bonjour.
Ah ouais,
le canyon du diable avec les chasseurs spectraux c'est vachement dur mais c'est bien fait, c'est à dire que t'as pas l'impression que comme on dit toujours c'est une nécropole qui tombe sur le coin de la tête, c'est à dire que c'est, t'as l'impression d'avoir ton destin en main, bon tu vas dérouiller ta race mais... Et puis en plus, l'intérêt avec le canyon du diable, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de PNJ, donc il y a beaucoup de viande. Donc tu n'es pas obligé de te faire les investigateurs. Tu peux décimer une équipe entière de tournage.
Ouais. Alors, mêler plusieurs pendules comme ça, je trouve ça aussi un peu bien casse-gueule. Hein. La majorité des campagnes que j'ai vues qui faisaient ça, en général, ça tournait au gros pulp, à base de Astur et Cthulhu qui se foutent sur la gueule, enfin...
Alors
ouais,
c'est
ouais, en le mauvais pulp hein.
On est d'accord, je mauvais pulp.
C'est oui, mais je reste sur l'idée que pour enfin si vous avez d'autres remarques ou des questions, vas-y. Moi je sais ça laisse sans voix hein, que je défends des ombres mais
c'est... Ouais non mais...
parce que enfin après, ça serait des grosses ficelles, mais que Carl Stanford se retrouve finalement sur chacun des scénars, ça pourrait être intéressant. Après, il faudrait réussir à le mettre dans cette caniche, je crois qu'il y est, mais vaguement, et surtout réussir à le mettre au tournage du film.
Et comment est faite la description de Rylet?
Alors, attends que je réouvre le truc. Je crois que c'est un peu galère. Qu'est-ce qu'ils mettent? Affronter le futur. En plus, à chaque fois, ça me fait penser à X-Files. Files the Future. Alors. Ça, c'est toutes les deux jeux. Putain, il y a des rachis, il y a deux jeux, quoi. Ah oui, parce qu'en plus, il y a deux scénarios additionnels. Mais je vous les ai même pas décrits, parce que... scénario additionnel et une campagne, on comprend, là. C'est la fin des investigateurs font route vers l'île de Relire et ça... avoué d'empêcher le réveil du grand Cthulhu. Oui, parce qu'ils vont voir Cthulhu, hein. Enfin, je vous rappelle que Cthulhu, à l'époque, c'était un dessin de santé mentale que vous parliez si vous avez raté votre G.
Facile. C'est une époque.
Ouais, c'est une époque.
Donc, l'île est une horrible montagne noire et visqueuse émergeant de pouf. Ouais. Les manches clientes sont visibles en dessous des
eaux. Sinon, moi j'ai une autre question, vu que. Mais enfin, j'ai peur
de. C'est pas terrible, quoi. C'est pas terrible la description.
Une autre question, oh, sinon.
Ouais.
D'abord, j'ai peur d'avoir la réponse déjà, mais vu qu'il n'y a pas de lien, comme tu disais, j'imagine qu'il n'y a pas de conseil non plus pour réintroduire les persos, vu que ça a l'air un peu bourrin.
Ben non.
Hein, ouais.
Alors, par il y a quand même un paragraphe où on dit « Les personnages qui tentent de combattre Cthulhu devraient être mutilés et annihilés. » Donc en plus, ça a été peut-être retraduit, mais c'est pas terrible. « Même le signe des anciens tant loué est impuissant contre un tel être. » C'est vrai que c'est un peu boucherie. Quoi. Par contre, s'ils s'en sortent...
poissonnerie, si ça me permet.
Oui.
Par contre, c'est vrai que... qu'est-ce qu'ils mettent? Combattre les adorateurs. Le fond, enfin le pseudo fond qu'ils mettent, c'est qu'à chaque fois les méchants sont censés appartenir au crépuscule d'argent. Que vous avez vu début, quoi. Où vous vous dites, bon bah si je les démantelé, normalement il devrait plus y avoir de soucis. Mais...
cette idée d'apparaître dans le culte était vraiment sympathique. Ça me fait penser un peu au gang de bikers où en fait seuls les plus élevés connaissent vraiment tout ce qui est trafic d'armes et autres. Les autres, ce sont que des petits prospects. Mais bien, ça nous va faire avec
ça. Ça c'est sympa et puis c'est très inspiré de la nouvelle comment ça s'appelle avec les mecs enfin le sortilège qui permet à partir de pierres de reformer des êtres. Je sais plus comment ça s'appelle. Tiré d'une nouvelle. Et non, ce scénario-là est très sympa parce que dans les fins fonds de la loge du crépuscule, il y a des trucs absolument horribles. Et celui-là est vraiment très sympa. Et je regarde un peu les pitchs des différents scénarios. Voilà, ouais, par exemple, voilà, le ver qui marche. Et cédé par les actes perpétrés à leur rencontre, les seigneurs, on sait pas trop pourquoi ils appellent ça comme ça, avec un grand S, décident de contre-attaquer. Un mico de leurs alliés déguisé en érudit attire les investigateurs dans le Maine en se faisant passer pour un allié potentiel.
Seigneur avec un A ou avec un E?
Non, avec un E comme ils ont posé. Mais avec un grand S. Je sais pas pourquoi. Non, c'est con, hein. C'est con parce que voilà, le premier scénario ils mettent lorsqu'une nouvelle loge ésotérique s'installe à Boston, les investigateurs décident d'y jeter un œil afin de tirer au clair les étranges rumeurs qui leur. Après avoir infiltré ses rangs, ils découvrent que leur droit scelle des degrés secrets, aucun desquels les membres adorent des dieux étranges et oubliés. L'intérêt, tu vois, dans ce scénario-là, rien que pour lui, c'est intéressant parce que il va falloir quand même qu'il fasse des trucs un peu limites pour monter dans l'ordre. Ils veulent être au courant des secrets, il faut qu'ils soient un grade assez élevé. C'est assez sympa et un peu tendancieux. Mais voilà, quoi, je suis d'accord, c'est. Derrière, c'est. Ça tient pas non plus des masses. C'est-à-dire que ça tient pas des masses pour une campagne. C'est ça qui est dommage.
Qu'est-ce que tu appelles tendancieux concrètement? Il y a quoi dedans?
Dans les différents rites?
Ouais.
On va commencer à faire boire des trucs un peu bizarres. On va commencer à faire venir des jeunes femmes un peu. Qu'on verra pas plus tard. Ou alors des choses comme ça.
D'accord. Parce que, pareil, mélanger le mythe et le sexe, c'est toujours. C'est un mélange très particulier à faire et à mon goût, l'une des divinités les plus dures à utiliser, c'est sans conteste Igolonac, quoi.
Oui, ah oui, non, je suis d'accord. Bon, encore que quand tu regardes les. Après ça, on aime ou on n'aime pas, mais From Beyond, le film, est pas mal. Il y a un côté un peu cul, un peu sadomaso, enfin.
Je crois que je vois le passage auquel tu fais.
Bon, perso, je n'ai pas chez moi de menottes et de choses accrochées au mur, mais. Mais voilà quoi, c'est. Non, l'art dramatique, non, c'est pas orienté comme ça trop au cul. Plus de dire, pour le prochain stade dans l'ordre, qu'est-ce qu'ils vont me demander? D'anticiper le truc, quoi. Tu sais, tu discutes avec d'autres, ils te font, ah ouais, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer, ah ben vous savez, John, lui, n'est jamais rentré. D'ailleurs, il a quitté l'ordre. Je crois qu'il va pas très bien. Déjà, tu peux faire pas mal de... C'est pas mal plané de choses. Ça peut être sympa, quoi.
D'accord.
Et monsieur... Ouais, voilà, ils mettent les liens sélectionnés. Ils mettent les liens vers les autres scénarios. Mais voilà, c'est pas... pas génial, génial, c'est pas tellement cross, cross scénario, quoi. Rien que le premier scénario, je crois que les indices, pas force, ça mène pas vers grand chose d'autre que le ça, c'est un peu dommage. Donc voilà, vous êtes obligé de passer finalement au plus dur, vos notes. Dark Keeper, de 1 à 5.
Alors, ouais, je dirais 2 sur 5, parce qu'il y a pas mal de bonnes. On ressent qu'il y a des mecs qui ont trouvé des bons petits concepts, mais là où il, ça aurait dû être un recueil de scénarios à part, cette volonté d'en faire une campagne, c'était pas terrible. Après, clairement, 2 sur 5 aussi, par le fait que ça s'appelle Les Ombres de Yoxotot et on voit que l'eau qui débarque à la fin, je te dis c'est une blague, non mais c'est pas permis quoi. C'est genre le truc, tu le fais jouer, tu donnes pas le nom de la campagne tellement t'as honte. Mais sinon, et puis l'autre truc qui me choque aussi, c'est non mais des dolls qui attaquent un bateau quoi.
Ah oui, alors attendez, j'oublie de vous dire pour clore le spectacle, c'est que pour s'en sortir, en réalité, il y a une option, c'est un peu comme les mystérieuses cités d'or, c'est-à-dire qu'il faut reconstituer une espèce de médaillon géant pour fermer la porte. Voilà, c'était ma, c'était ma dernière note, mais en effet, bonne note, deux. Et de ton côté, Prince Noir, t'en as mis combien?
Alors, moi déjà, ma première question, c'est est-ce que 1 est le minimum? Est-ce qu'on peut mettre moins?
tu peux mettre des notes séparées pour les scénarios.
Non, je mets le minimum parce qu'il y a deux choses déjà qui me gênent. L'absence de lien, parce que pour moi c'est très important pour faire le lien entre chaque scénario, tout ça. C'est difficile de travailler pour faire une relation entre chaque scénario dans une campagne. Enfin, ça a plus rien d'une campagne, quoi. Sinon tu prends n'importe quel scénario, si tu n'arrives pas à les lier. Et c'est le problème de base qu'on a quand on cherche à relier tous les différents scénarios qu'on veut jouer. Donc pour moi c'est la base, quoi. Une campagne, sinon c'est pas une campagne. S'il n'y a pas de lien pour passer d'une étape à une autre.
Bah pour te dire, le troisième scénario, ça commence par ça. Contacté par un certain Jacob Hancock, les investigateurs vont devoir se rendre en Écosse pour enquêter sur la disparition de son oncle Henry. Drame, machin et tout ça, voilà. Donc aucun lien avec le reste.
C'est ça,
et
c'est...
puis les monstres, il y a trop de monstres. Pour moi, c'est trop. Ça a l'air trop, ouais. Trop bourrin. Trop old school et pas dans le bon sens du terme.
Putain, pourtant j'avais beaucoup misé sur cette défense. Bon, c'est pas grave, je continuerai. Non mais c'est vrai, faut lire les scénars, en virer certains, diminuer la mortalité. Et c'est vrai que bon, quand t'achètes une campagne, je sais pas combien elle vaut celle-là, mais quand t'achètes une campagne...
Trop cher. Elle vaut trop cher.
Un truc à même à 30 euros, c'est vrai que ça fait un peu cher parce que c'était vachement de boulot. Bon. Bon, bah, messieurs, sur ces bonnes paroles, il est quelle heure? Hein, il y a Fox.
Minuit moins 20.
Oh, putain, ouais, quand même. Bah, écoutez, je vais vous remercier beaucoup. On a quand même tenté de défendre, Dark Keeper et moi, des choses difficilement défendables.
C'est clair.
Bon, j'avoue, j'ai choisi une difficulté qui était un petit peu insurmontable. Alors que toi, tu t'en es bien sorti, Dark Keeper, malgré nos remarques sur le système. Car voilà, le recueil en lui-même valait le coup.
C'est vrai que, bon, le débat fut un peu enflammé, mais je suppose que... Le système et le setting de campagne, c'est deux choses qu'on peut facilement séparer.
Et puis je te dirais, pour être honnête, on ne parle pas et on ne s'enflamme pas sur les choses qui nous intéressent pas. Moi le premier.
Oui, aussi, oui.
Voilà, ouais.
et très honnêtement, Trail of Cthulhu, moi j'y avais mis énormément du système Game Show. Parce que justement, c'était la première fois, une des premières fois où on nous offrait une alternative.
Oui,
c'est peut-être un mélange de déception, de trop d'attente qui a fait ça. Mais je peux t'assurer que j'ai même fait, avant que je me frite avec le 7ème cercle, j'ai même fait un scénario de démonstration à la Gen Con de Trail of Cthulhu. Un scénar, je sais plus lequel c'était. C'était un truc qui se passe sur une île avec un avion qui s'est crashé, un truc comme ça. Ou c'était très sympa. Donc, non. Mais donc voilà. Trois campagnes, bon, Yacht et puis Londres, c'était quand même un peu du caviar à défendre parce qu'il y a vraiment un bon fond. Les ombres, bon, d'accord. Mais le fait est que voilà,
c'est un cadre de campagne, c'est pas juste un scénario.
J'ai dû parler énormément du bouquin parce que contrairement à une campagne où tu peux facilement où t'as en gros t'as juste la trame, et ce qu'au final ce que tu vas commenter sur une campagne c'est beaucoup de l'expérience de jeu derrière plutôt que la campagne en elle-même ou l'écriture. Là j'ai vraiment besoin de parler du contenu quoi, parce que
c'était le même intérêt qu'il y a eu quand Desprite nous a parlé de la Faramite, je trouve. C'est un concept à découvrir, c'est des nouvelles idées, c'est des questions.
Puis heureusement que je sais pas moi qui l'ai défendu l'affaire Armitage, parce que je peux vous dire que le pauvre Desperate, quand j'ai à la fin du podcast, j'avais envie de lui sauter dessus, j'ai pondu un pavé sur le topic, enfin bref.
C'est vrai.
Ah oui, je sais pas si vous avez lu, mais oui, j'ai pondu un pavé sur l'affaire Armitage.
Mais c'est parce que pour résumer, t'avais trouvé que sa défense était
Elle était sympa, mais
il a rappelé des choses.
Je critique pas des Sparite, hein. Sa défense était tout à fait pertinente, mais à mon goût.
Ici, vas-y, il est pas là pour dire.
Non, je ne critique pas les gens qui ne sont pas là, mais enfin, si, parce que maintenant qu'on a lancé le sujet, mais effectivement, il était passé à côté du gros quoi.
Par contre, attention, tu l'as fait jouer toi.
Oui, je l'ai fait jouer.
Ah voilà, grosse différence.
D'accord. Okay.
Lui, il attention. Alors, ça n'empêche pas tes arguments, mais lui, voilà. Lui,
c'est un complément d'expérience qu'il
a. Tout à fait, mais c'est vrai que c'est ce qu'il nous avait dit. Il nous avait dit qu'il l'avait lu, mais qu'il ne l'avait pas pratiqué encore avec ses joueurs. Et justement, il était.
Non, il a été honnête sur ça. Hein.
Ouais, il était assez avide, justement, de retour d'expérience. Donc, je pense que ça s'est complété avec tes retours, il n'y avait aucun souci. Mais charger un peu des sprites, ça fait du bien même quand il est pas là. Faux. Par contre, parce que faut lui mettre un peu la pression parce qu'il viendra défendre quand même Terreur sur Antexpress. Enfin, personnellement, moi je suis.
Ah, ça va être bon, ça va être bon.
Moi j'adore cette campagne personnellement, mais après, je comprends qu'il y ait plein de gens qui la trouvent linéaire, mais on verra. Bon messieurs. Eh bien écoute, Dark Keeper, déjà je te remercie beaucoup pour ta participation, c'est très sympa. Mais comme je le dis à tous. Donc c'est ouvert à tout le monde, donc si tu veux revenir une fois où il y a un podcast ou même revenir à chacun, il n'y a aucun souci, on t'accueille avec grand plaisir.
C'est un plaisir d'être venu aussi.
Ben, Prince Noir, il n'y a pas de souci, Prince Noir t'as toujours un mauvais fond, donc on te garde. Et puis t'es le seul qui est à peu près de mon côté sur le site, donc il faut absolument que je te garde, sinon je serai tout seul. D'ailleurs, un des prochains podcasts, ça risque d'être intéressant. On fera pas trop polémique, mais il y en aura un petit peu. Ça sera avec les gens de Radio Rollist. Avec Cobel, qui au demeurant très très sympa, que j'ai très souvent rencontré en convention et qui est quelqu'un d'absolument charmant. Mais voilà, eux ils défendent des trucs indéfendables, des trucs que personne n'achètera. Donc,
j'aime bien.
Oui, moi aussi, j'aime bien ce qu'ils font.
Voilà, bah, vous voyez comme quoi il y a des avis partagés, moi ça me saoule. Mais si. mais Cobal est quelqu'un de très sympa et tout ça, mais enfin, les entendre de rôter après avoir bu des pina coladas et bouffé de la pizza, ça m'intéresse pas. mais c'est personnel.
Ah,
moi je dis quelqu'un qui boit ne peut pas avoir mauvais fond.
Voilà, en plus je ferais mieux de fermer ma gueule vu que vous m'avez entendu me verser ma petite limonade.
Voilà, en plus.
Remarque, pas la brise, pas démonté pour autant. Hein.
Non, mais je bois pas d'alcool. C'était de la grenadine de chez
on dit ça,
Dessert. Bah, messieurs, je vous remercie beaucoup. Et puis, ben, je vous dis, de toute façon, on se reverra sur TikTok et puis peut-être le prochain podcast.
Oui.
Et sur ces bonnes paroles, Fungloui.
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 Today we are canceling the apocalypse.